Le journal de l'histoire, le 16 octobre, sera entièrement consacré au souvenir du fondateur de notre radio. J'espère que vous serez nombreux à l'écouter pour lui dire adieu avec nous. Une messe sera dite à Saint-Germain-en-Laye, à l'église Saint-Germain, devant le château de Saint-Germain-en-Laye, lundi prochain, à 15h15. Et Jean Ferret sera ensuite enterré dans le caveau familial à Saint-Martin-la-Rivière. En pensant très fort à Jean, je veux dire en son nom, vive Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz, 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 11 octobre de 18 à 21 heures, en différé jeudi 12, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
Amis de la Résistance, bonsoir. C'est un bien triste jour, comme vous l'a dit à l'instant Henri de Lesquin, mais comme dit également la tradition, je ne sais pas si on peut dire le spectacle continue, disons que la Résistance continue. Voilà, nous avons perdu un des chefs de la Résistance, mais on va continuer quand même à résister sur le plan culturel, sur le plan de la défense de la langue française, encore que là-dessus je sois probablement pas le meilleur représentant des forces de défense de langue française, mais heureusement d'autres y suppléent largement. J'ai invité ce soir, outre Henri de Lesquin, Jean-Gilles Malirakis. Bonsoir Jean-Gilles.
Bonsoir Serge.
Et Jean-Luc.
Bonsoir. De Carbuccia, oui.
Ah, de Carbuccia.
Exact.
Ah, c'est donc la même personne.
Oui.
Bon, les choses
espérons
de...
comme ça.
Et bien entendu, l'équipe habituelle, amputée provisoirement du Marquis, qui décidément ne se décide pas à gagner son corps d'origine, Patrick Goffman.
Bonsoir.
Le nouveau, le petit nouveau, Jean-Pierre Rondeau.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre. Et puis Victoria, bien sûr.
Fidèle au poste.
Fidèle au poste. La première partie, la première demi-heure de l'émission sera consacrée à quelque chose qu'on, je ne voudrais pas appeler ça un hommage, parce que ça prend toujours un air un peu pontifiant, mais Chacun va parler du Jean Ferry qu'il a connu. Alors, j'ai demandé à Jean-Luc de venir parce que c'est probablement, Jean-Luc, tu étais probablement un des plus vieux amis de Jean.
Un demi-siècle.
Un demi-siècle, voilà, ça commence à
un bon demi-siècle.
Un ami de 50 ans, c'est presque deux fois un ami de 30 ans. J'ai demandé également à Jean-Gilles de venir parce que Jean-Gilles était à partir au commandant, canal historique.
Voilà, pratiquement canal historique.
Canal historique de Radio Courtoisie, et puis c'est lui qui a accepté la lourde charge d'assurer la succession éditoriale, à titre intérimaire. Mais enfin, quand le titulaire de la fonction disparaît, l'intérim devient presque une tâche à charge.
Écoute, je ne sais pas ce que tu veux évoquer, mais en tout cas, je vais essayer de parler en tant que responsable d'émission, voilà. De ce que j'ai entendu dire par les amis.
Mais je crois que le moment est un peu précoce pour répondre aux nombreux appels que j'ai eus déjà de gens qui me disent « Mais qu'est-ce que va devenir Radio Courtoisie ?» Ce que je peux vous dire à titre personnel, c'est que pour moi, ça ne devrait rien changer. Alors on va demander naturellement à Henri de Lesquin quelle est son opinion sur le sujet. J'espère qu'il répondra que Radio Courtoisie va continuer à vivre, ce qui est quand même l'essentiel. Il l'a déjà dit, puisqu'il a dit « Vive Radio Courtoisie ».
Je l'ai déjà dit dans l'annonce, Radio Courtoisie continuera à être la radio de Jean Ferret, même si Jean Ferret n'est plus là physiquement, il restera là par la pensée. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que Radio Courtoisie soit fidèle aux principes, aux orientations posées définitivement, en tout cas pour très longtemps, par Jean, c'est-à-dire la radio de toutes les droites, sans aucune exclusive, la radio de la langue française, la radio culturelle que vous avez toujours connue, une radio, je n'ose dire plurielle, c'est un terme galvaudé, mais une radio diverse, avec des personnages qui se succèdent de jour en jour et qui sont tous très différents. C'est ça qui fait la richesse de la radio. Et je me rappelle très bien, puisque vous nous demandez, Serge, d'évoquer aussi nos souvenirs, un souvenir très récent, enfin assez récent, c'était au mois de mars dernier, et Jean Ferret, donc, savait qu'il était très malade, et me disait, je ne veux pas me faire opérer. Alors je le suppliais d'agir vite, je crois vraiment qu'il a tellement tardé, qu'il a compromis définitivement sa santé. Et il me disait, non, je veux d'abord, avant de me faire opérer, et il s'est fait opérer d'ailleurs, mais trop tard, je veux avant de me faire opérer, être certain que tout est en ordre et que la radio est assurée de continuer après moi, après ma mort. Il évoquait ouvertement sa mort dans cette conversation, comme j'ai voulu qu'elle soit. Et je lui ai promis qu'avec tous ceux qui l'aiment et qui sont qui l'aiment, mais ce n'est pas seulement affectif, qui sont conscients de ce que représente Radio Courtoisie. Hein. Vous parliez de la résistance, Serge, mais c'est un terme tout à fait adapté. Résistance culturelle, résistance politique, résistance politiquement correcte, enfin tout ce que représente la radio que vous écoutez, chers auditeurs. Eh bien, Jean Ferret voulait que ça continue après lui, et vous, Serge, vous, Jean-Gilles, et tous ceux qui dirigent les émissions, je crois, sont convaincus, et puis je dirais, ils sont convaincus, ils sont aussi engagés moralement, puisqu'ils ont accepté une émission. Deux gens, hein, tous ceux qui sont actuellement à la tête d'une émission, l'ont fait parce que Jean, qui avait tous les pouvoirs que lui conférait par délégation le conseil d'administration, donc parce que Jean les a choisis, désignés ou acceptés. Alors, donc c'est très simple en fait. La radio va continuer sans Jean, physiquement présent, mais dans l'esprit de Jean, il y aura, bien sûr, la vie existe toujours des changements, hein, mais Jean en a toujours fait, de temps à autre. Mais le principe, c'est que l'administration de la radio est assurée, alors, non plus par Jean d'une manière différente, il y a maintenant un conseil d'administration, un président par intérim du comité éditorial qui assure justement cette responsabilité de l'antenne, hein, c'est Jean-Gilles Maliarakis que vous venez d'entendre, et je crois que la répartition des tâches est assurée de manière harmonieuse, et les responsabilités sont bien situées. Les libres journaux sont des libres journaux, Serge. Donc évidemment, dans le cadre qui nous est imparti à tous, le directeur du Libre Journal dit vraiment ce qu'il veut, dans le respect bien sûr. Faut tenir un discours, enfin j'ai du mal à plaisanter, mais si un directeur d'émission appelé à voter Besancenot, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait que le conseil d'administration se demande si vraiment il est bien à sa place.
Je crois que d'ailleurs, enfin, j'ai justement une lettre d'auditeur me disant je suis bien déçu et en colère que vous preniez position si vite pour un Le Pen contre De Villiers. Ce n'est pas le rôle de notre radio et je vous invite à inviter le dit De Villiers à s'expliquer sur vos accusations, faute de quoi vous perdrez plus qu'un adhérent.
C'est à vous, Serge.
Oui, c'est à moi que ça s'arrête. Voilà. Mais il dit, ce n'est pas le rôle de notre radio. Et je voudrais dire, à propos de ce que vous venez de dire, c'est que je crois qu'un directeur d'émission n'est pas là pour appeler quelqu'un à voter pour qui que ce soit. Il est là, son droit strict, c'est de dire, comme je le fais moi, voilà pour qui je vais voter. Mais ça n'engage ni la radio,
voilà,
ni les invités de l'émission.
C'est ce que je veux dire, c'est très important. Voilà. C'est-à-dire que le directeur d'émission, Serge Lebecq par exemple, il peut appeler à voter Le Pen, c'est son droit le plus strict. Voilà, je ne vois aucun
ça n'engage pas la radio.
En revanche,
je pense pas que Saint-Robert fera la même chose.
C'est la position de Serge Lebecq. La radio n'a pas de position en tant que radio. Voilà. En tant que collectivité.
Il y a un forum qui s'appelle...
Vous savez, Jean Ferret n'a pas trouvé pour rien cette très belle expression de libre journal.
Oui, absolument.
Il a conçu une formule géniale, Jean Ferret. Hein. Le libre journal, c'est une très bonne formule.
Je regardais tout à l'heure un forum qui s'appelle Radio Courtois.
Forum Courtois. Auquel on accède via le remarquable blog. Tout ça étant fait par des gens.
Alors, je ne sais pas si c'est celui-là ou un autre, mais en tout cas, il était question de ça. Et un des correspondants de ce forum, une des personnes qui s'exprimait sur le forum, a montré que je crois que les auditeurs ont très très bien compris ça. Ils disaient justement que si Ferret mérite un hommage particulier, c'est parce qu'il a tenu toujours, et ça je peux en témoigner, d'une façon parfaitement rigoureuse, à ce que chacun puisse s'exprimer en toute liberté dans cette radio, dans les limites de la loi, on est bien d'accord. Même si parfois...
Les coutumes du royaume, disons.
Voilà, les coutumes du royaume, c'est mieux, absolument.
Et dans les limites de l'identité de Radio Courtoisie, c'était encore une fois l'hypothèse d'école de Besancenot. Voilà.
Ou de la défense inutile de l'art abstrait, par exemple.
Ah, même on ça, irait pas ça se discute. Non, franchement...
Ce qui est merveilleux, c'est que ça se discute et que c'est la liberté, Radio Courtoisie.
Voilà, donc ce correspondant de ce forum dit quand on pense que cette radio a sur ses ondes un Beckett et un Saint-Robert, on mesure effectivement l'espace de liberté que ça représente. Mais il faut dire que quand même, nos différences avec Philippe de Saint-Robert sont assez importantes, non ?
Mais moi j'aime bien les deux.
Mais ben voilà, c'est tout. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui s'intéressent aux deux.
Alors j'ajoute qu'il n'y a pas que la politique sur Radio Courtoisie. C'est une radio culturelle associative. Alors certes, la culture et politique sont très liés, mais
comme dirait Gramsci,
chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous savez bien que beaucoup d'émissions sont très dégagées des contingences de la politique, très éloignées de la campagne électorale. Hein,
ouais. Jean-Gilles.
Mais que dire sinon paraphraser ce que mon ami Henri de Lesquin vient de dire. Moi, j'insisterai en effet sur cette liberté, sur la fécondité de la liberté que nous a appris à découvrir Jean Ferret. Parce que en entrant dans cette petite galère, pour parler comme les jeunes d'aujourd'hui, enfin, ils n'ont pas cet accent-là. Je vois le sourire de notre camarade Goffman. Donc, en montant dans cette galère du roi, je suis tombé dans un monde complètement différent. Complètement différent, où on était libre de penser, de s'exprimer, peut-être en faisant attention à la forme. Et par exemple, j'ai l'impression d'avoir réappris un petit peu seulement la langue française. J'ai la courtoisie telle que me l'avait enseignée ma maman m'avait servi, mais j'ai appris par exemple à découvrir des gens formidables qui sont aussi des invités qui acceptent de venir, qui découvrent par exemple un espace aussi très étonnant, celui d'une émission de 3 heures. J'ai parlé pendant 1h30 pour développer son point de vue. J'ai eu le plaisir, je vais citer 2 personnages bien différents, Alain Perfit ou Michel Jobert, de dire c'est formidable. C'est formidable de pouvoir s'expliquer comme ça, par exemple dans une crise internationale où les télévisions demandent à un homme qui a été ministre de gouvernement aussi différent que Michel Jobert de d'expliquer en deux minutes la première guerre du Golfe. Bon, alors ici, il a pu s'exprimer sur tout un espace, et puis d'autres, dans toutes sortes d'émissions différentes. Cette liberté est totalement féconde, et c'est une astuce intelligente, c'est une astuce de pauvre. Et faire une guerre de pauvres, ça permet peut-être de devenir à terme beaucoup plus fort que les grosses armées très riches. Cette astuce de pauvre consiste à se reposer uniquement sur des hommes qui ont une espèce de sens de l'honneur en commun, peut-être pas toujours le même, mais je voudrais que les auditeurs observent ceci en près de 20 ans maintenant. Il y a 365 jours par an. Enfin, je ne veux pas vous décrire tout ça. Je ne sais pas sur les. On ne compte pas sur les doigts d'une main le nombre. On ne compte pas sur les doigts d'une main. Les doigts d'une main suffisent largement à trouver les émissions défaillantes. Donc les gens qui sont entièrement bénévoles, les responsables d'émissions, viennent là, ils prennent leur petit métro, etc. Et à 6h moins 1. Au plus tard, miracle, ils arrivent, ils font leurs émissions, où ils ont trouvé, s'agissant par exemple d'un ami comme Jacques Garello, qui fait toujours entre deux avions, mais les avions d'Air France ou même les trains à grande vitesse, quand ils roulent, c'est à grande vitesse, mais quand ils s'arrêtent, ça peut être sur un... Donc un homme comme Garello, même quand il rate son avion, quelqu'un fait son émission, etc.
J'ai le souvenir d'une directrice d'émission qui, ayant subi un deuil particulièrement douloureux, puisque je crois que c'est son fils qui était mort le jour même, a fait son émission. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est un dévouement à une cause gratuite au sens le plus noble du terme. C'est un dévouement magnifique. Mais j'étais en admiration devant ça.
C'est d'une certaine façon, bon, cette femme est admirable, mais c'est aussi du Jean Ferret. Je veux dire que le fait de laisser les gens libres est beaucoup plus efficace que de les contraindre.
C'est ce que j'allais dire aussi à propos de Jean Ferret, c'est qu'on avait l'habitude de se moquer gentiment de lui quand il disait « je travaille 25 heures sur 24 ».
Mais en plus, c'était vrai. C'était vrai. Et d'une certaine façon,
non, mais c'est
des heures de sommeil qui lui ont manqué.
Et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons principales, on en parlait, pour lesquels il faisait des rediffusions, parce que c'était le seul moment où il était à peu près tranquille, où il pouvait se laisser aller comme un marin qui fait une solitaire. Il a droit à des plages de sommeil de 10 minutes, après il faut qu'il se réveille, autrement il perd son cap. Eh bien, je pense que s'il rediffusait beaucoup d'émissions, c'était un peu pour ça, pour se dire, bon, ça, celle-là, je sais qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, donc dormons pendant une heure. Et
il y a un peu de ça.
Et vraiment, quand on dit cet homme s'est tué à la tâche, je crois que dans le cas de Jean, c'est absolument vrai. Moi, je l'ai vu dans des états d'épuisement. Enfin, ça, je demanderai tout à l'heure à Jean-Luc de nous en parler. Mais au moment où on a créé cette radio, dans des états d'épuisement absolu, de désespoir absolu, parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. On était obligé de courir partout pour trouver du fric. C'était inimaginable. Eh bien, il tenait le coup, et pas une seule seconde, il a baissé les bras, et ça finit par l'user, c'est évident. Jean-Luc, toi, tu as connu presque...
Alors, Serge, j'ai rencontré Jean Ferret dans le train, lorsque nous ramenions le capitaine Carlsen à Paris. Le capitaine courageux, qui était resté dans son navire, quitte à sombrer avec lui pour que la cargaison, qui était extrêmement précieuse, qui était une cargaison stratégique, ne tombe pas entre les mains d'autres personnes. Ensuite, nous avons été très unis dans l'affaire du docteur Bombard, que j'ai édité, 9 fois j'ai volontaire, et nous avons donc là également, avec 2 hommes courageux, 2 navigateurs, étaient très unis dans une action qui amenait lui, Jean Ferret, radio amateur, puisque depuis la petite enfance, il se passionnait pour la radio et qu'il avait de ses propres mains fabriqué un petit appareil qui lui permettait de communiquer avec le monde entier sur ondes courtes. Donc Jean je l'ai toujours vu à la fois attiré par le courage et aussi par la technique. Ensuite, il a été un des collaborateurs de Science et Vie, et c'était un journaliste scientifique de premier ordre. Alors, on a également été en relation.
C'est un inventeur aussi, car je crois, moi j'y connais absolument rien, j'ai jamais rien compris. Dès qu'il n'y avait plus qu'une poulie et un engrenage, je ne sais même pas de quoi on parle. Mais je crois me souvenir qu'il avait inventé quelque chose à la radio qui évitait un problème de réception.
Oui.
Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit ici?
Quand il était radioamateur, effectivement.
Oui, mais oui. Pour la radio, je pense.
Pour ici, il a donné beaucoup de conseils techniques.
Et je me souviens en tout cas qu'il m'avait raconté qu'il avait inventé quelque chose qui évitait le comment ça s'appelle, quand ça chinte, comme ça, que le son baisse et revient, etc. Bon. En tout cas, c'était un véritable technicien de la radio. La radio à lampe.
Oui. Et alors Jean Ferret était aussi un homme qui avait un sens artistique très développé, puisque lorsqu'il était en exil en Espagne, il avait trouvé le moyen de faire le catalogue de Watteau, du grand peintre Watteau français, le premier catalogue honnête qui ait pu être fait. Et c'est en cela qu'il était inventeur de une technique, un art ou une science que l'on pourrait appeler la pictographie. Il s'est toujours appuyé sur l'obstacle, Jean Ferret. Et lorsqu'il était en exil en Espagne, plutôt que de se morfondre et d'attendre le retour, il avait trouvé le moyen de rester, de redevenir et d'être de plus en plus français en se plongeant dans les études de Watteau. Alors, donc, je l'ai toujours retrouvé extrêmement actif, rebondissant et libre. Lorsque il a créé Radio Courtoisie en 87, il m'avait demandé d'y participer en qualité de représentant de Lumière 101. Lumière 101 était une radio dite historique, puisque elle existe depuis 81. Et Lumière 101 était donc sur 101 MHz en 81, d'où le nom de Lumière 101. Et nous avons eu sur le cahier des charges qui est actuellement renouvelé régulièrement par le CSA la responsabilité du dimanche. Donc c'est aussi en qualité de représentant de Lumière 101 que j'ai l'honneur, mon cher patron d'émission, d'être comme ton invité. Alors, Lumière 101 est une radio dont je coordonne les émissions et qui émet toute la journée du dimanche, de tous les dimanches que Dieu fait. Lumière 101 se distingue de Radio Courtoisie en sens que Radio Courtoisie est une radio qui est une radio dont les différents éléments parfois opposés même entre eux, et c'est le miracle de Jean Ferret d'avoir réuni toute la droite. Ça n'a jamais été réalisé depuis que la droite existe. Il a réuni dans une même entité toutes les nuances de la droite.
Et les droites.
Et bien entendu.
Les droites,
c'est une formule qui existait déjà depuis un certain temps et qu'il a illustrée d'une façon exceptionnelle. Et donc, c'est la tradition nationale, qu'on pourrait appeler ainsi pour faciliter les choses, qui est éminemment représentée dans ce pays en semaine par Radio Courtoisie. Lumière 101, c'est la tradition chrétienne. Ce sont deux traditions qui se recoupent souvent et qui parfois se complètent, mais qui ne sont pas parfaitement identifiables. Donc c'est à ce titre-là aussi que je suis présent et que je reconnais que Jean ne nous a jamais demandé de faire une émission, ne nous a jamais indiqué un thème, ne nous a jamais pré ou post-censuré. Et lorsque nous avons créé cette radio, puisque cette radio s'est créée, nous avons, avec Pierre Chaunu, dans lequel je rends hommage, et qui peut-être nous écoute, lorsque nous avons créé cette radio, nous avons évidemment tout de suite été assaillis par les sarcasmes et en but au scepticisme général, scepticisme qui est assez courant dans ce pays. Et Jean, avec une grande sagesse, a toujours affirmé que les défis que nous relevions n'étaient pas des défis, mais tout simplement les résultats d'une étude qu'il avait faite, comme Bombard en laboratoire, avait démontré qu'il pouvait traverser l'Atlantique sur un bateau pneumatique sans provisions et sans risque excessif. Et en tout cas, sans risque inconsidéré. Jean Ferret a fait exactement la même chose. Il savait toujours où il mettait les pieds. Alors, en quoi était-ce des défis ? Premièrement, parce que il n'était pas question d'avoir un financement autre que celui des auditeurs qui, par ailleurs, pouvaient très bien ne pas financer la radio puisqu'ils pouvaient, en tournant le bouton, l'écouter, ce qui est incroyable en France. Personne n'a jamais imaginé que ce fût possible. Jean Ferret l'a inventé, l'a, le savait, et l'a réalisé. Et ça dure depuis 15 ans. Deuxièmement, Jean a fait quelque chose d'assez rare et exceptionnel. Il a fait que pendant 3 heures, messieurs, c'est votre cas à Radio Courtoisie, on puisse, sans interruption musicale, et sans bien entendu publicité, maintenir l'attention des auditeurs. Ça, on a dit, ça ne marchera jamais dans ce pays. Les gens vont raccrocher, ils vont se fatiguer. Eh bien, là aussi, c'est un défi que nous avons tous remporté. Grâce à cette certitude de départ de Jean Ferret, c'est également un deuxième défi. Et il y a un troisième défi aussi, c'est que on n'a pas de publicité. Et on a toujours dit, oh mais sans publicité, vous n'y arriverez jamais. Alors, que dit publicité, puisque qui paye commande, dit également servitude. Et ça, personne n'y croyait.
Et là, donc, j'ai un témoignage personnel à apporter, si tu permets, Jean-Luc, c'est que, tout à fait au début de cette radio, quelqu'un est venu voir Jean Ferret en lui disant, je peux vous apporter beaucoup d'argent par la publicité, mais à une seule condition, c'est que vous passiez de Beckels. Et Ferret l'a viré. Il lui a dit, mais c'est même pas un sujet de discussion, monsieur, je n'ai plus rien à vous dire. Alors que j'ai su que les sommes proposées étaient
hypothétiquement
confortables. Alors évidemment, ça, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, et il est probable qu'une fois le nettoyage opéré, l'argent serait fait rare. Mais n'empêche que le genre ne s'est même pas posé la question, il a viré le type immédiatement, et je me souviens que ce brave homme était un prétendu spécialiste de la radio, qui se baladait avec un chien bleu, blanc, rouge.
Ah. Permettez-moi, ça c'est un point très important, l'indépendance de la radio, parce que j'ai oublié de rappeler au fond ce qui peut être l'essentiel, c'est que la radio est indépendante. Alors évidemment, le libre journal, c'est libre, mais l'ensemble de la radio est totalement indépendant de toute force, puissance, comme on dit dans le serment américain, force, puissance ou potentat étranger, et même national.
Dans notre cas, c'est vrai.
Mais notre cas, c'est totalement vrai, et ça doit le rester. Mais je voudrais rappeler aux auditeurs, comme le dit très bien Jean-Luc de Kerbucha, que la radio ne vit que grâce à eux. Et demain comme hier, il n'en ira pas autrement. Nous n'aurons pas de publicité, nous n'aurons pas de subvention, nous n'aurons que les cotisations des auditeurs.
Et je peux livrer
donc,
un secret.
Donc, je voudrais appeler les auditeurs qui n'ont pas encore régularisé leur situation en envoyant la cotisation à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, de le faire. Elle est de 40 euros minimum.
Alors, je vais livrer un secret sur le départ les tout débuts de cette radio, les tout débuts vraiment, avant même que on n'avait même pas de local, on n'avait rien. On avait vaguement trouvé un local qui était ici et on n'avait même pas le moyen de payer l'installation électrique au début. Et donc il fallait trouver de l'argent. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, en bon militant, je suis allé voir Jean-Marie Le Pen en lui disant « Est-ce que tu peux nous avancer 50 000 francs qu'on te rendra dès que la boutique tournera ?» Et Le Pen m'a dit « Non, je peux pas parce que je suis en train de créer ma propre radio et j'ai aucune raison de financer une radio qui sera forcément concurrente. » Donc on s'est retrouvé, gros gens comme devant, on a ramassé nos fonds, moi j'avais un tout petit peu d'argent que j'ai mis, et on avait une amie qui avait gagné le deuxième prix du Figaro, qui était une voiture, qui était, je crois que c'était une Lancia ou quelque chose comme ça. Elle a vendu sa voiture, elle nous a donné la moitié du prix de la voiture. On ramassait des sous comme ça. Et puis, Philippe Varlet me dit, mais...
Alors Philippe Varlet, qui est le secrétaire général,
De Radio,
de l'association.
De l'association, qui était tout à fait au début, enfin vraiment...
Qu'il était au début, qui est un des fondateurs et qui l'est toujours.
Voilà,
et
qui est toujours là. Me dit, mais pourquoi on n'irait pas demander à l'abbé de Nantes? Je sais pas pourquoi l'abbé de Nantes. Bah, pourquoi pas l'abbé de Nantes? En fait, oui, pourquoi pas. Alors on va voir l'abbé de Nantes. Et je lui ai dit, voilà, monsieur l'abbé, voilà la situation, on crée une radio, on n'a pas un sou, etc. Alors ce que je vous propose, c'est, vous nous avancez de l'argent, et puis on vous le rendra. Et en moi-même, je me disais, je pense qu'il va accepter, parce que ça va faire miroiter l'hypothèse qu'il aura la parole à la radio, et il sera content d'avoir la parole à la radio. Et il me dit, oui, je peux vous aider. Et alors à ce moment-là, je lui ai dit, mais bien entendu, vous serez invité à la radio comme tous les représentants de toutes les droites. Et il me dit, non, ça, il n'en est pas question, ça ne m'intéresse pas du tout, je ne crois pas du tout à cette histoire, je n'ai pas du tout envie de faire de la radio, moi j'ai mes conférences parisiennes. En tout cas, je vais vous prêter 30 000 francs, mais il me faut 2-3 jours pour solder mon compte épargne logement. Et donc l'abbé de Nantes a soldé le plan épargne-logement de la fraternité de Saint-Parlé, ou personnel, oui. Alors, enfin, il était à son nom personnel, mais c'était l'argent de la fraternité, enfin de Saint-Par. Et puis on lui a rendu par la suite, par petit bout, je crois qu'il y avait un petit peu de cotisation qui rentrait, on lui rendait ses sous. Et j'ajoute, pour être complet, qu'il s'est immédiatement fâché avec nous, parce que comme la radio, enfin avec moi en tout cas, parce que comme la radio a commencé à marcher, à être écoutée, et que il faisait des conférences de soir, certaines de ses habitués ont cessé d'aller à ses conférences pour écouter Radio Courtoisie. Donc il avait réchauffé le serpent dans son sein.
Serge,
voilà comment financièrement comment elle est cette radio.
C'est...
Comment elle n'est pas née, tu veux dire, financièrement. Parce que ce qui est intéressant tout de même au total, c'est que à part 2-3 coups de pouce anecdotiques. Et bien, en définitive, c'est vraiment les cotisations des auditeurs.
Évidemment.
Et on peut d'autant plus le dire que le crible du CSA, évidemment, à un moment donné, il a bien fallu nous mettre en accusation comme étant une radio financée par je ne sais quelle...
Oh bah la radio de Le Pen.
Non, de tous les services spéciaux du monde, qui se donnent la main, en l'occurrence. Oui. Et à l'arrivée de la conclusion du CSA, c'est que ces gens-là sont totalement limpides. En effet, c'est des petites cotisations, les recettes sont totalement claires et elles vont continuer à l'être si les auditeurs entendent ce qu'intériorisent et mettent en pratique ce que vient de dire Henri de Lesquin, c'est-à-dire qu'en effet, ils peuvent cotiser y compris sur Internet, maintenant sur radiocourtoisie.com.
C'est le progrès. Mais il faudrait quand même dire une chose, c'est que les auditeurs doivent savoir qu'ils sont des éditeurs libres, car ils peuvent financer la radio en adhérent ou pas, eh bien, cette radio leur donne cet honneur et cette dignité.
Et cette dignité est très efficace et moderne.
Alors, remarque pratique, vous pouvez en effet, si vous êtes un internaute, je crois que le terme est acceptable.
Non, absolument français, la petite...
Si vous êtes un internaute, vous pouvez maintenant payer en ligne sur le site de Radio Courtoisie, radiocourtoisie.com, sans tirer entre radio et courtoisie, je crois. Et donc vous pouvez payer en ligne si vous avez une carte bleue.
C'est trop facile. Hein, moi je l'ai fait. C'est vraiment très
facile. Et vous pouvez également. Et je vous conseille de le faire si vous voulez vraiment assurer un financement régulier à Radio Courtoisie. Envoyer ou demander qu'on vous envoie plutôt une formule de virement automatique. Comme ça, vous donnerez à votre geste un caractère régulier et ce sera plus simple que de faire de temps à autre.
Automatique mensuel, trimestriel.
Mensuel ou trimestriel,
à volonté.
Un virement à volonté. Il faut demander une formule que vous renvoyez à la radio. La radio envoie la formule en question à votre agence bancaire et vous avez toujours la possibilité, à tout moment, bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit la radio, de résilier, évidemment, l'ordre de virement.
Alors, je voulais vous dire une chose quand même. Pour les gens qui croient crois que Radio Courtoisie est dans une situation très difficile et moribonde. Nous sommes pour quelques jours dans une situation qui est la suivante, c'est que le site radiocourtoisie.com est saturé et actuellement il est bloqué, son fonctionnement n'est pas...
suspendu.
Non, il n'est pas du tout suspendu. Le fait est que vous êtes trop nombreux à aller. La technologie de l'internet fait que on est tributaire de la bande passante. On peut être des milliards à écouter par les ondes hertziennes. On ne peut pas être simultanément des milliards à écouter un site internet. Donc ces choses-là, je dis ça à l'attention des internautes et des autres. Ces choses-là, nous sommes en train de les faire évoluer. Mais la fréquentation du site internet est en pleine croissance. Nous allons changer tout simplement d'hébergement. Voilà. Et également, là, on a eu une panne parce que vos cotisations. Actuellement, le problème ne se pose pas comme ça. Vos cotisations via internet ont été extrêmement nombreuses. Et on a franchi un nouveau seuil de ce côté-là. Tout cela pour dire que Radio Courtoisie n'est pas uniquement une radio de gens complètement à l'écart du monde moderne et encore moins une radio en voie de dépérissement. Le petit message, c'est déjà on a eu une alerte hier. Depuis le début septembre, il y a un tout petit problème technique. Il y avait un tout petit problème technique pour nous capter via Internet. Là, on est en saturation. Rassurez-vous, dans quelques jours, peut-être dans le courant de la semaine prochaine, tout ça rentrera en ordre. Enfin, excusez-moi de ces petits détails.
C'est très important, mais Serge. Voilà. Serge, je crois qu'on peut aussi rendre hommage à Jean Ferret d'avoir créé cet esprit d'union. Et il y a quelques semaines, je lui ai envoyé un message en lui disant, Jean, il y a quelques années, tu m'avais dit, je pense à telle personne pour me succéder. Et je lui ai dit, non, ça ne marchera pas, à mon avis. Et puis, il a pensé à quelqu'un d'autre, et puis ça ne marchait pas non plus. Alors, finalement, lors de notre dernière réunion, j'ai tout de suite pris conscience que Jean avait réussi, puisque Jean m'avait dit, je ne réussirai que lorsque j'aurai assuré ma succession. Et cette succession, elle n'est pas assurée par un homme, mais par une équipe, par un groupe. Eh bien ça, c'est exceptionnel. Et c'est encore une réussite de Jean Ferret, et peut-être quelque chose de tout à fait nouveau dans ce pays.
Merci Jean-Luc. Alors on a énormément de messages d'auditeurs. Oui, vous voulez dire quelque chose ?
Je voudrais dire, oui. On nous demande, de nombreux auditeurs demandent qu'on précise que ça donne droit quand on fait un don, on cotise, on a droit à une défiscalisation.
Et de 66%.
Fait, ça revient à donner le tiers, à payer le tiers de ce qu'on donne comme cotisation ou comme don.
Donc je dis, on a eu énormément d'appels d'auditeurs qui nous témoignent leur qu'ils partagent notre peine et notre tristesse quand on a appris la mort de Jean Ferret
et notre détermination.
Et bien notre détermination à continuer, c'est sûr. Mais ce qui est étrange et ce qui est un peu troublant, c'est que me disent les téléphonistes que je remercie. Beaucoup d'auditeurs téléphonent en disant « Mais pourquoi parlez-vous de Jean Ferret à l'imparfait ?» Alors, ils ont pris l'émission en cours, et donc ils ne savent pas que nous avons appris hier soir, très tard dans la soirée, que Jean Ferret était mort à l'hôpital de Saint-Germain, des suites de cette maladie qui avait été diagnostiquée. Alors, Henri nous disait... déjà depuis longtemps, mais il refusait de se faire soigner parce qu'il pensait qu'il n'avait pas le temps de le faire et que ça pouvait attendre. Et ça a été donc soigné un peu tard, le 1er juillet.
Je ne serais pas d'accord avec toi ni avec Henri de Lesquin lorsque vous dites que la radio l'a tué. Je crois au contraire que cette radio a prolongé sa vie. C'est une autre face de la même médaille.
Oui, mais non, je fais allusion à un fait précis qu'il m'a confié. Les médecins, son médecin, lui demandaient de se faire opérer depuis un certain temps. Il m'a répondu, il m'a dit en mars dernier, j'en témoigne, il m'a dit non, je ne veux pas me faire opérer, je retarde l'opération. Et finalement, il a été opéré le 29 août, mais beaucoup trop tard, alors qu'il avait été hospitalisé déjà. Et c'était, et donc,
s'il n'était pas déjà
volonté,
trop tard.
Sa volonté de ne pas décrocher tant que la succession justement n'avait pas été organisée a fait que malheureusement il a mis sa vie en péril. Alors je voudrais peut-être, Serge Becquet, si vous me permettez, donner à nouveau les indications pratiques aux auditeurs. C'est-à-dire, la messe pour Jean Ferret a lieu donc à l'église Saint-Germain, à Saint-Germain-en-Laye, en face du château de Saint-Germain-en-Laye.
C'est à la sortie du RER.
À la sortie du RER, ligne A. Lundi 16 octobre, lundi prochain, à 15h15. À 15h15, lundi 16 octobre. D'autre part, on peut, ceux qui le souhaitent, peuvent se recueillir sur la dépouille, devant la dépouille de Jean Ferret, à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, 11 rue Armagis, à Saint-Germain-en-Laye. À partir de demain, jeudi 12, à 14h, jusqu'au lundi 16, à 14h45.
Merci. Alors j'indique que bon, cette émission, je l'ai dit dès le départ, était totalement improvisée. C'est pas un hommage, c'est une façon de montrer notre amitié, notre tristesse et puis notre volonté de continuer. Mais d'autres émissions beaucoup plus complètes seront consacrées à Jean lundi soir.
Lundi soir, le libre journal de Jean Ferret sera le libre journal des adieux à Jean Ferret. Et nous consacrerons les 3 heures à parler de lui et de son œuvre.
Et dimanche,
dimanche à midi,
alors c'est une belle initiative, ça aussi.
Les 60 patrons d'émission à dire chacun pendant une minute cet hommage qui chacun à leur façon fera chaud au cœur de beaucoup d'entre nous. Puisque nous sommes tellement nombreux maintenant à être bénévoles et à consacrer notre temps et tous nos moyens à cette radio.
Merci Jean-Luc, merci Henri de Lesquin, merci, à moins que Jean-Gilles Malliarakis veuille dire encore un mot.
Ben non, tout est dit.
Non, tout n'est pas dit, mais effectivement,
Jean-Pierre
Proutot,
qui est un auditeur et un collaborateur maintenant de cette radio.
Non, je voudrais juste dire qu'en tant que représentant de la communauté pied-noir et président de plusieurs associations, nous saluons aussi le combattant de l'Algérie française et le remercions pour l'accueil qu'il nous a toujours réservé ici.
Et c'est bien entendu Jean-Pierre Rondeau, c'est pas Jean-Pierre Proutot, je deviens un gaga moi aussi. Patrick.
Si j'ai 30 secondes, moi je pourrais apporter le témoignage d'un acteur, d'un très humble acteur de la vie culturelle. Je travaillais comme commercial aux éditions L'Âge d'Homme, qui ont cette particularité commune avec Radio Courtoisie de n'être pas commercial. Je me souviens d'une scène de Vladimir Dmitrievitch à qui on faisait une suggestion commerciale et qui bondit de son siège à 70 ans en hurlant « Vous voulez transformer L'Âge d'Homme en la maison commerciale ?» Donc c'était vraiment pas une maison commerciale. Et donc on n'était pas très bien payé. Moi je faisais fonction de directeur commercial, j'avais 6000 francs, je peux le dire, maintenant il y a prescription. Mais je me souviens de cette année où on nous a dit « Écoutez, regardez, voilà les chiffres, voilà l'impact de cette radio sur notre chiffre d'affaires. Donc tous les employés mettent la main à la poche. Tout le monde, avec 6000 francs par mois, a mis la main à la poche pour Radio Courtoisie avec le sourire, avec un grand sourire, parce que on se battait avec des tout petits salaires pour réaliser une œuvre culturelle, et Radio Courtoisie était le seul média absolument, dans l'esprit de Jean Ferret dont nous venons de parler, à nous aider dans cette direction.
Je voudrais encore parler du nerf de la guerre, c'est-à-dire de l'argent dont Radio Courtoisie a besoin pour vivre. Car nous avons besoin non seulement de rééquilibrer nos finances, mais également de développer la radio. Je vous rappelle que la radio n'est pas entendue sur modulation de fréquence à Marseille ni à Lyon. Donc notre projet, c'est de trouver l'argent pour nous développer dans les grandes villes de province. Il faudrait que tous les Français puissent accéder à Radio Courtoisie
et même les Belges en dehors
évidemment d'internet et de TPS. Il faudrait que ceux qui n'ont ni internet ni TPS ou qui préfèrent écouter sur modulation de fréquence puissent avoir partout en France Radio Courtoisie. Cela dépend de l'effort constant et renouvelé de tous les amis de Radio Courtoisie, donc c'est pour ça que je m'adresse à vous, chers auditeurs.
Merci messieurs. Je vous rends votre liberté.
Merci Serge.
Et nous allons poursuivre cette émission. Alors on va faire un peu une valse des chaises, comme c'est la coutume. J'en profite pour signaler que mon camarade Marc Laudeloup, nous appelle pour nous faire remarquer une lacune, et c'est vrai, on n'a pas du tout parlé de C'est à lire, la revue que Jean Ferré avait créée.
On en parlera lundi. Ouais.
J'imagine que vous en parlerez lundi. Et Marc-Claude Loup, qui est le directeur, l'animateur, le fondateur du bulletin Célinien, nous écrit « De tout cœur, je m'associe à votre deuil. Il faudrait aussi souligner qu'en France, Jean Ferré fut le fondateur d'une presse magazine qui n'existait pas auparavant. Et c'est dans l'hebdomadaire C'est à lire qu'il donna la parole à Céline, à une époque où il était le pestiféré des lettres françaises. Il donna aussi la parole au brillant polémiste Albert Parraz, qui arrivait difficilement à faire passer ses articles dans les années 50.
Pendant que vous reprenez Alain, Serge, peut-être qu'on peut donner libre cours à l'émotion des auditeurs dans les messages s'entassent en grand nombre.
Alors je commence, une auditrice. On est très triste de cette nouvelle et on espère tous que Radio Courtoisie va continuer. Le pays est réel et en deuil, et en tant que l'un de ses représentants, je tenais à exprimer toute ma reconnaissance et mes condoléances à l'équipe tout entière de cette admirable radio. Ainsi, je transmets mes condoléances à la famille de Jean-Pierre Ferré. On a perdu, nous dit cet auditeur, un nouveau grand Ferré. Les officines vont redoubler d'efforts. Dites bien que M. Jean Ferré est mort au champ d'honneur. Mon chagrin est grand par cette annonce, car je connaissais Jean Ferré depuis Radio Solidarité, à l'époque où vous étiez tous les deux, Serge de Bekech. Jean Ferré vient de décéder, et comme par hasard, le site internet de Radio Courtoisie est inaccessible. Vos ennemis n'ont pas attendu. J'estimais beaucoup Jean Ferré, mais est-il vrai qu'il vous avait donné l'ordre, Monsieur de Bekech, de ne plus inviter Alexandre Chabanis?
C'est absolument faux. Jamais Jean Ferré ne m'a donné d'ordre de recevoir ou de ne pas recevoir qui que ce soit. La seule fois où il est intervenu, c'est une fois où j'ai voulu faire une émission sur Pasteur. Pardon. Et il m'a dit que les arguments que je voulais exposer n'étaient pas sérieux et que c'était pas souhaitable. Ça a été la seule fois où ça s'est produit.
C'est Serge de Bekech qui tousse et c'est moi qui fume pourtant.
Ben oui, mais si t'arrêtais de fumer, je tousserais moins.
Bon, on peut redire alors encore où auront lieu les obsèques. D'autres auditeurs n'ont pas eu le temps de noter. Donc c'est à Saint-Germain.
Saint-Germain-en-Laye.
À 15h15, je ne sais plus quel jour, lundi prochain, non ?
Lundi, c'est ça.
Lundi prochain, donc c'est devant le château et le métro, c'est le RER.
Le RER, Saint-Germain-en-Laye.
Voilà. Il y aura donc du monde.
Merci. Jean-Pierre, je voudrais que...
Jean-Pierre Rondeau.
Jean-Pierre Rondeau, je voudrais que vous nous parliez d'un sujet qui est d'actualité, c'est l'extraordinaire annonce faite par Sarkozy que s'il était élu, il s'engageait à prendre des mesures pour permettre aux populations immigrées d'accéder à la propriété des terres françaises.
Je rappelle que Jean-Pierre Rondeau est notre expert financier indépendant. C'est un professionnel.
Indépendant aussi, voilà.
De Mégara Finance.
En fait, donc, Sarkozy participait donc à une réunion dans laquelle il s'est exprimé sur un rapport du président de la Caisse nationale des caisses d'épargne, Milo, hein, et c'était sur l'intégration économique des migrants. Alors, en fait, des immigrés. Il faut savoir que déjà nous avions relevé dans la presse le fait que il allait exonérer, je crois que vous en avez parlé ici, les mandats qui partiraient dans les pays du Maghreb notamment seraient défiscalisés, hein, donc ça tout le monde l'avait noté, mais il existait un deuxième point de ce rapport qui n'avait pas été relevé et donc pour lequel Sarkozy est intervenu donc tout à fait récemment et disant que le seul moyen d'aider à l'immigration, enfin un des principaux moyens était l'accès des migrants à la propriété. Voilà un grand chantier qui doit s'ouvrir le plus tôt possible. Voilà une ambition pour l'avenir. Et donc, cela part du fait que...
Alors ça, c'est une parole verbale. C'est-à-dire, il dit, pour intégrer les immigrés, il faut leur permettre d'acheter le terrain. Alors, effectivement, on voit très bien le système, enfin, le processus de réflexion. Hein, une fois qu'ils auront acheté le terrain, ils seront chez eux, et par conséquent, ils vont forcément s'intégrer.
Alors, la phrase principale, c'est « Je crois profondément que la possession d'une parcelle de France, à travers la propriété d'un appartement ou d'un pavillon, peut favoriser l'identification à la France d'une partie des populations issues de l'immigration, donc constituer un puissant levier de l'intégration. »
Alors, ça, d'abord, la première chose qu'on peut constater, si on se promène un peu en France, je ne sais pas si Sarkozy se balade beaucoup en France, mais moi, je me promène quand même un petit peu, notamment en Vendée, notamment dans le sud-ouest.
Mais est-ce que vous avez 90 gardes du corps autour de vous en permanence ?
Non, justement,
je n'ai
pas de garde du corps. Et j'entends les gens qui parlent d'une immigration qui est une immigration légèrement différente de celle que veut privilégier Sarkozy, qui est l'immigration anglaise. Mais j'ai peine à croire, je veux pas m'avancer, parce qu'on me ferait le reproche de voir tout en noir, si j'ose dire. J'ai peine à croire que des gens qui passent leur temps à gueuler littéralement contre les Anglais qui achètent des propriétés dans le sud-ouest se réjouiraient de voir d'autres que les Anglais acheter, alors là, avec du fric qu'on leur donnera, parce que c'est à ça qu'on va revenir, Jean-Pierre, des propriétés ou des maisons ou des appartements ailleurs. Je voudrais que Sarkozy m'explique comment ça fonctionne, son truc. Moi, je crois que ça va être générateur de troubles supplémentaires, que les gens vont être foudrages. Ça va naturellement provoquer de nouvelles poursuites judiciaires, parce que je connais des gens, je pense à des amis notamment, qui ont mis leur maison en vente et qui nous ont dit, au moment où ils mettaient la maison en vente, nous, on veut pas passer d'annonce dans la presse, parce que de toute façon, on veut pas vendre à des étrangers. Et quand ils disaient des étrangers, c'était pas forcément des Anglais. Ils voulaient pas vendre à des Anglais, mais pas à d'autres non plus. Donc là, il va certainement y avoir des gens qui vont avoir le même réflexe, ce qui va permettre à monsieur Schweitzer de la Halde, et accessoirement condamné sans peine pour avoir organisé les écoutes téléphoniques pornographiques de monsieur Mitterrand à l'Élysée, ce qui donne une idée de la valeur morale du personnage. Monsieur Schweitzer, donc, qui aujourd'hui est chargé de la police de la pensée en matière d'exclusion et de supposé ou prétendu racisme, ça va lui permettre d'engager de nouvelles actions et de plumer encore plus les Français. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait au moins avoir la décence de servir de ce fric pour investir dans des prêts. Alors comment ça va se passer pour les immigrés?
Déjà, je ferai une première correction sur ce que vous venez de dire. Il est vraisemblable que ce ne sont pas des logements individuels qui seront vendus par des Français, mais il est vraisemblable que l'État, possesseur de certains terrains, pensons aux vieilles casernes, pensons récemment à l'île à l'île Seguin, etc., donc possesseur de, ou par préemption, va donc saisir des terrains. Et vous le savez, c'est déjà quand même un peu entamé à travers les fameux prêts Borloo, enfin les fameuses maisons Borloo à 100 000 euros qui sont proposées donc à des publics en difficulté. Donc ce sont déjà vraisemblablement des terrains qui seront cédés à un bas prix. La deuxième chose, c'est que c'est évident, ces populations n'ont pas d'apport personnel, n'ont pas de choses comme ça, et donc l'apport personnel, il sera vraisemblablement constitué par un apport des caisses d'allocation familiale ou par tout autre organisme à caractère social. La deuxième chose, c'est que il va falloir financer les maisons qui seront construites dessus, et elles seront vraisemblablement construites par des prêts à des taux préférentiels. Alors des prêts à des taux préférentiels, voire zéro. Hein. Alors on peut penser que comme c'est un prêt, ça se rembourse, bien sûr. Mais déjà le fait que ça soit un prêt à taux zéro, aujourd'hui on est à une inflation relativement basse, mais dans les 10, 20 ou 30 ans qui vont venir, l'inflation peut repartir. Et le prêt à taux zéro peut coûter très cher à l'organisme qui l'aura consenti, qui sera vraisemblablement un organisme d'État ou une banque qui accordera un prêt qu'on appelle bonifié et que j'appelle un prêt subventionné. Donc, et la perte étant bien sûr à la charge de l'État. Alors je reviendrai après sur le mot charge de l'État, bien entendu. Ensuite, c'est une durée très allongée. Aujourd'hui, le phénomène en France, vous savez que les Français sont en train de s'endetter, et donc c'est un prêt avec une durée très allongée. On parle aujourd'hui d'un prêt à plus de 20 ans, et voire 30 ans, et donc il est vraisemblable que ces gens bénéficieront, parce qu'ils n'ont pas les moyens de salaire, etc., et de revenus, eh bien de durée très allongée, et donc de 30 ans, voire plus. Et donc là encore, eh bien, un prêt à un taux préférentiel et allongé pendant des années, eh bien, c'est évident que si la distorsion avec l'inflation est importante, le coût pour l'État est tout aussi important. Ensuite, qui va supporter le risque? La personne ne peut pas rembourser. Qui va supporter le risque? Le risque, bien sûr, on peut penser qu'on pourra expulser la personne et vendre éventuellement le logement ou l'attribuer à un autre, mais quand on voit ce qui se passe
au bureau, par
aujourd'hui,
exemple.
Et les déclarations de Borloo il y a quelques mois disant qu'il fallait plus expulser des gens des HLM, il est évident que personne ne sera expulsé, que les gens resteront dans la place et que le risque, donc, c'est-à-dire le non-remboursement du prêt, sera encore supporté par l'État ou par l'organisme subventionneur. Ensuite, dans un prêt, il y a souvent une assurance crédit. Qui paiera cette assurance crédit? Peut-être personne. Et donc, dans ce cas-là, risque total. Ou ce sera une assurance à taux préférentiel. Et on verra l'apport de l'État. Alors, quand je dis l'apport de l'État, je m'amuse beaucoup parce que c'est ce qui est écrit un peu partout.
L'État, c'est moi.
L'État, c'est moi.
C'est moi aussi, d'ailleurs.
Voilà, c'est nous tous.
Avec le Goffman qui parle.
Voilà. Donc, en plus, on a découvert, je ne l'ai pas vérifié, mais on a découvert que... dans le discours de Sarkozy, que cela existait déjà en région lyonnaise. J'ai pas encore eu le temps
Oui, c'est curieux, j'ai appris ça aussi.
Voilà. Donc, moi, je considère que c'est un appel d'air extraordinaire. On va dire, vas-y en France, on doit acheter. Et en plus, c'est une distribution. C'est-à-dire que dans le discours, il dit, il faut donner une parcelle de France. C'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, voilà. Bon vent à ceux qui veulent voter Sarkozy.
Oui, surtout qu'ils gênent pas.
Vous êtes pied noir, Jean-Pierre Rondeau. Alors, ce que vous racontez là, ça me fait penser à l'histoire d'une dame qu'on m'a racontée récemment et qui a acheté un très grand appartement, très beau, très cher, à Alger en 1960.
Oui, c'est une bonne idée.
Vous voyez ce que je veux dire?
C'est une très bonne idée, effectivement. Ça me fait penser à l'histoire des Canadiens qui avaient réuni tous leurs amis, des riches Canadiens qui, en 36, avaient réuni tous leurs amis dans leur propriété qu'ils venaient de vendre pour un grand pot de départ en disant, nous, on s'en va, parce qu'il va y avoir la guerre. Ils étaient assez lucides, d'ailleurs. Ils avaient compris qu'on se dirigeait vers une guerre mondiale. Et ils ont dit, le Canada va être, comme c'est le Canada est dans le Commonwealth, c'est que l'Angleterre sera impliquée forcément en cette guerre contre l'Allemagne, parce qu'ils savaient bien que ce serait contre l'Allemagne. On préfère s'en aller maintenant plutôt que de subir les conséquences de cette guerre. Et on s'est retiré dans un endroit où personne n'ira nous chercher. C'est voilà, vraiment, si on veut être tranquille, on a trouvé l'endroit idéal. Personne n'a jamais entendu parler de cet endroit. Et quelqu'un leur dit, si personne n'en a jamais entendu parler, vous pouvez peut-être nous dire où c'est. Oui, il n'y a pas de problème, vous ne risquez pas de venir nous enquiquiner. C'est une toute petite île dans le Pacifique qui s'appelle Guadalcanal.
Bon choix.
Voilà.
Je peux juste dire un mot, parce que sur ce que vient dire notre ami, c'est à propos du film Les Indigènes, je reviens une seconde dessus, mais ce qui en a été la conséquence, c'est la cristallisation, la fameuse cristallisation des pensions. C'est sympa, des combats se sont battus pour nous, etc. Donc je ne peux que adhérer là-dessus. Maintenant, quand même, il faut garder les pieds sur terre. Ces combattants sont restés dans des pays qui ont accédé à l'indépendance. Il y a des harkis qui sont partis d'Algérie et qui sont venus en France. Il y a des gens qui ont choisi, c'est quelquefois sans trop le vouloir, mais ils ont choisi de rester dans un pays qui a spolié des milliards et des milliards à la France et des milliards à nous, les Français d'Algérie. Et par exemple, je voudrais juste dire un mot. C'est que, par exemple, les colonies de vacances qui appartenaient aux caisses de retraite de Pieds-Noirs en Algérie, aux caisses qui sont en France, les bâtiments qui sont en France, ont été donnés à l'État algérien. Donc voilà.
Merci Jean-Pierre. Alors maintenant, on va un peu vite, parce que, naturellement, l'actualité nous a obligés à modifier le programme de cette émission. Et je voudrais vous présenter Jean-Denis Faury de Vassal, qui est un nom magnifique, et qui est l'auteur d'un livre non moins magnifique, intitulé « Le dictionnaire médiéval », paru chez Dualfa Édition, avec une préface de Michel Peyramort. Alors, le dictionnaire médiéval, vous allez être surpris, qu'est-ce que c'est? C'est un dictionnaire des termes médiévaux. Et c'est un, bon, pour les amateurs de dictionnaires dont je m'honore de faire partie, c'est un véritable régal. Parce que,
merci.
Ah oui, c'est une merveille votre livre. Puis là, en plus, pardonnez-moi de le dire, mais vous avez tout à fait la tête pour faire ce genre de livre. On a l'impression que vous êtes descendu d'un bas-relief médiéval ou d'un vitrail.
Il lui manque quand même quelque chose, je pensais qu'il aurait été en armure.
En armure, alors, il manque l'armure.
Alors, je réponds à tout ceci, je me présente tout d'abord. Je suis à facettes très multiples, puisque je suis avant tout chercheur médiéval sur les us et coutumes au Moyen-Âge, et j'ai été dévergondé il y a 5 ans, puisque je suis parti sur les routes faire les fêtes médiévales. Je suis acteur médiéval. Donc, à 59 ans... J'ai pris des cours de théâtre de rue et je suis allé au contact des populations.
Ah, c'est bien.
Et donc mes ancêtres, puisque ma famille remonte à 986, je m'en honore au moment où c'est soi-disant peu honorable, puisque j'ai quelques petites anecdotes, si vous avez 5 minutes. Une fois, il y a une dame qui me dit « Monsieur, pourquoi vous appelez-vous deux ?» Je lui dis « Parce que je m'ennuie tout seul, madame. » Une autre fois, il y en a une qui me dit « Vous n'avez pas honte d'être noble ?» Je lui dis « Apprenez, madame, que noble est l'inverse d'ignoble. » Et une fois, mon fidèle écuyer, qui est directeur de radio à Brive, à qui elle disait « Vous avez l'air de vous reposer. Oui, madame, nous repartons à la croisade finir le travail. » Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, si vous me permettez, puisque j'habite les contrées incriminées, à savoir la Corrèze, le Lot, et c'est vrai que nous avons des Anglais et des Hollandais, mais je dois dire avec un petit sourire qu'eux, ils font l'effort de s'intégrer. C'est tout ce que j'ai à dire.
En plus, vous avez l'accent dont on rêve. C'était l'accent...
Mais j'y tiens, hein, mon accent. Bah,
j'y tiens. Bien, vous avez tout à fait raison d'y tenir, parce que c'est un accent merveilleux. Et puis c'était l'accent d'Henri IV. C'est comme ça qu'on parlait français.
Nostre Rei, notre roi.
Alors, ce livre est superbe. Bon,
alors, ce livre, je m'excuse de vous couper. C'est 15 ans, c'est mon petit bébé.
Voilà. J'allais vous demander.
C'est 15 ans de travail. Voilà. Alors, je dois dire que j'ai eu une période faste, puisque dans un autre monde, je le dis en souriant, j'étais représentant en pharmacie. J'avais une vie très aisée. Et par une garce de femme, j'ai été spolié de tout. C'est-à-dire qu'elle m'a enlevé tout, un manoir, etc., etc. Et donc, je me suis retrouvé en caravane. Et pour rebondir, j'avais deux solutions. Soit tomber dans la déchéance, l'alcool, etc. Soit reprendre les études du Moyen-Âge, puisque ma grand-mère Clémence de Vassal m'avait élevé dans les esprit chevaleresque, et donc j'ai préféré reprendre les études. J'ai lu à peu près 5000 livres, je suis allé à la bibliothèque de Bordeaux, de Brive, etc., etc. Je m'honore de faire partie de la Société des études du Lot, de la Société historique de Brive, et donc j'ai repris les études, et il y a 5 ans, on m'a dévergondé pour partir sur les routes, et j'en suis ravi, puisque le week-end dernier, j'étais pas loin d'ici, j'étais à Brie-Comte-Robert, où je faisais la médiévale de Brie-Comte-Robert. Et où je m'éclate.
Il y en a de plus en plus de ces fêtes médiévales en France.
500. 500 en France, en Espagne, Portugal. Au Portugal, il faut savoir que c'est de la folie. Il y a 50 000 personnes jour. Vous en avez en Belgique. Il m'a été donné d'en faire à Liège. Vous en avez au Luxembourg et en Suisse.
Là, vous jouez quel rôle, vous?
Alors, moi, j'ai créé... Non, pas du tout. Monsieur parlait d'armure et de côte d'armes. Je suis donc un habit du 14e. Je dois dire que lorsque je revais cet habit, ça m'occulte complètement le 21e siècle. Et c'est très bien. Et on va me prendre pour un fou, mais tant pis.
Tout le monde rêve de faire la même chose, en fait.
J'ai l'impression que nous avons des idées qui se ressemblent étrangement. Et donc... j'ai créé un personnage en 4 points, c'est-à-dire que je suis le héros d'armes, j'ai la nature mal dotée d'une voix puissante, donc je clame les nouvelles. Ensuite, j'interviens lorsqu'il y a des creux, je suis très interactif, c'est-à-dire que malgré mon âge, puisque j'ai 64 ans, je parcours toutes les médiévales en long, en large, en travers, et lorsque je sens qu'il y a un creux, j'interviens en racontant les fabuleuses histoires du baron Saltimbanque, des histoires qui peuvent être égrillardes, ça dépend ou alors des histoires sur les châteaux forts, les choses comme ça, sur les personnages qui sont très peu connus et très sympathiques, ou moins connus ou plus connus comme Gaston Phoebus, vous voyez. Ensuite, j'anime les festoyances. À ce sujet, j'ai toujours aux éditions du Alpha, que vous trouverez chez Primatis, rue Primatis, à la fin du mois, j'ai un livre qui sort, le premier tome d'une série de 10 qui va s'appeler Festoyons, puisque les festoyances étaient les banquets au Moyen-Âge. Et donc, il va traiter de tout ce qu'on mangeait au Moyen-Âge, du déroulement du banquet. J'évite les inepties qu'on raconte au sujet des paysans qui ne mangeaient rien, ce qui est faux, puisque le bœuf, par exemple, était réservé aux paysans. Pourquoi ? Parce que c'était une nourriture riche. Et comme on savait qu'il fallait qu'ils travaillent et qu'ils aient des protéines et des choses comme ça, on leur réservait le bœuf.
D'ailleurs, quand on regarde les tableaux de Bruegel, on voit bien qu'il ne suçait pas que des poissons. Hein.
C'est certain. Donc voilà, je vis pleinement ma passion. J'ai cette chance.
Si je peux être indiscret, la garce dont vous parliez tout à l'heure, elle vous a rendu un foutu service quand même.
Oui, parce que vous
imaginez à 64 ans, assis dans votre fauteuil, au coin du feu de votre manoir, à vous enquiquiner toute la journée à regarder la télévision.
Est-ce que j'ai une tête à m'enquiquiner?
Alors, donc ce dictionnaire médiéval, bon, on pourrait croire à sa truculence que Jean-Denis Faurie-Laval et Vassal est un saltimbanque.
Je revendique, d'ailleurs, baron authentique et saltimbanque encore plus authentique.
Mais ce qu'il faut dire, c'est un vrai travail de lexicographe. Et j'ai appris, mais vraiment beaucoup de choses en le lisant, et des choses drôles. Par exemple, savez-vous comment on disait un impôt au Moyen-Âge, Jean-Pierre?
Non.
La maltote. C'est quand même bien vu, non?
Je vais vous raconter une petite anecdote parce que j'ai pas voulu faire un dictionnaire, comment dirais-je, qui vous prenne la tête en parlant vulgairement. Donc au Moyen-Âge, madame, il y avait des robes qui étaient comme ceci, c'est-à-dire qui étaient ouvertes et où on pouvait passer les mains. Et savez-vous comment cela s'appelait?
Non.
Les portes de l'enfer.
Ah, très joli. Et puis, on voit les origines de certains mots. Par exemple, savez-vous comment on appelait une spécialité gastronomique à base de mouton et de miel? La mamounia.
Ah, tiens, c'est marrant.
Et donc, c'est un mot d'origine arabe, certainement.
C'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que dans ces mots, justement, puisqu'on parle que les musulmans ont tout fait en Espagne et en France, est-ce que beaucoup de mots sont...
Alors, j'ai un grand sourire parce que je vais vous expliquer, sans haine ni passion, je tiens à le préciser, ni parti pris, le Moyen-Âge, on a beaucoup galvaudé le Moyen-Âge avec les clichés habituels. Moi, ça me fait sourire parce que quand on parle de Renaissance, il n'y avait pas besoin de renaître étant donné qu'on naissait. Alors donc, on parle beaucoup d'Al-Andalouse. Al-Andalouse, c'était le pays où les Sarrasins, puisque le mot arabe n'existait pas, et là, je tire toutes les sonnettes parce qu'on m'a tellement fait de procès d'intention que arabe au Moyen-Âge voulait dire habitant du désert, hein. Donc ce n'est pas péjoratif de ma part. Comme je dis, au Moyen-Âge le racisme n'existait pas. Pourquoi? Parce que chacun respectait l'autre, point à la ligne. Et donc
je réponds à la question.
Et donc je réponds à la question. Je vois que monsieur est amusé. Oui, parce qu'il faut mettre les tirés là où il faut les mettre. Hein. Et alors donc, on a dit beaucoup que les Sarrasins avaient amené beaucoup à la culture médiévale. Ils ont amené, certes, par exemple, mon deuxième livre va être consacré aux troubadours. Et c'est vrai qu'ils ont apporté à la musique, aux instruments de musique et autres. Mais par exemple, quant à la médecine, Montpellier, qui a été la première faculté de médecine très importante au Moyen-Âge, puisque c'est 1290, si mes souvenirs sont exacts, de mémoire. Et donc, on vous parle de la médecine arabe, entre guillemets, c'est-à-dire la médecine sarrasine. Or, il faut savoir que les 10 Sarrasins ont pris toute leur médecine en des hindous et des perses. Donc, ils n'ont rien inventé du tout. Mais il faut savoir, pour vous situer le Moyen-Âge, que déjà en 1300, on opérait du glaucome et qu'on faisait déjà des trépanations.
Et dans l'étymologie des mots, alors
Alors, l'étymologie des mots, j'ai bien scindé les choses. Il y a beaucoup de mots qui sont de la langue d'oc, puisque vous savez que la langue d'oc, je rappelle pour les néophytes, le oc et oil veulent dire oui, et suivant la région dans laquelle on était, en gros, La Rochelle, Grenoble, en bas, c'était oc, et en haut, c'était oil. Et donc, je précise l'étymologie, soit latine, soit arabe, puisque, par exemple, le mot alcool vient de l'arabe. Et c'est vrai qu'il y a des choses...
Vous avez tous entendu parler d'Olivier Le Dain. À votre avis, que veut dire Le Dain dans ce surnom? Vous avez une idée, monsieur Wouters?
Non, patron.
Et vous, monsieur Goffman?
Non, monsieur.
Je précise que moi, ma science est quand même très fraîche, hein. C'est parce que j'ai le
nez dans la... Il y a deux minutes, il ne le savait pas du tout, ah, et en fait.
Mais voilà, parce que je m'étais toujours demandé pourquoi il l'appelait le Dain. Et j'imaginais que c'était un personnage un peu, ouais. Je dirais pas efféminé, mais un peu délicat comme ça, qui était habillé en peau de Dain, tout simplement. Pas du tout. Le Dain, ça veut dire le diable. Et ça vient du flamand qui veut dire mauvais, du mot flamand qui veut dire mauvais.
Alors à ce sujet, au sujet du diable, excusez-moi de faire une parenthèse. Tout le monde connaît les gobelins. Les gobelins, le gobelin au Moyen-Âge, c'était le diable.
Des petits elfes, des petits diablotins. Je voudrais compléter votre réponse à la question très intéressante de Monsieur Rondeau sur les mots d'origine arabe. Il y a d'autres lexicographes, vos confrères, qui se réunissent tous les 6 mois et, se frappant le front en disant « j'ai trouvé », disent, vu l'atmosphère actuelle...
Non, ils disent « Eureka ».
Eureka. On va... non, ils le disent en arabe, vous allez voir. Puisque, donc, tous les 6 mois, ils se disent, vu dans l'ambiance actuelle, on va vendre un dictionnaire des mots d'origine arabe, très très bien. Et puis, ils commencent à creuser un peu le sujet, et tous les 6 mois, ils laissent tomber, parce qu'ils s'aperçoivent qu'un dictionnaire de 3 pages, ça serait pas très commercial, finalement.
Et alors, mon dictionnaire va évoluer, puisque c'est fait pour vivre, un dictionnaire comme cela. Moi, en continuant mes recherches, j'avais un petit cahier, vous savez, comme tous les écoliers. Je marquais à l'encre rouge, et maintenant, je suis à l'encre verte, donc je sais exactement les mots qui ne sont pas sur mon dictionnaire, qu'il y en a une foule. Hein, et donc, je vais ajouter et faire une réédition avec mon ami Philippe Randa, incessamment, peut-être même avant.
C'est un trésor, ce bouquin. Un trésor, je veux dire, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un vitrique ? Le vitre, c'est fabuleux, la précision de la langue. Le vitrique, nous dit M. Jean-Denis Faurie de Vassal, c'est pour les enfants d'une veuve le deuxième mari de leur mère. C'est leur beau-père, en nous on appelle ça leur beau-père.
Et pourquoi vitrique alors ?
Alors, ça doit venir du latin,
Oui, du latin.
Mais c'est tout à fait extraordinaire. Et on voit la richesse de cette langue, et puis on voit aussi à quel point... ça indique beaucoup de choses sur la vie quotidienne, sur les choses qui comptaient, sur les choses importantes, parce qu'il y a beaucoup de mots relatifs à la famille, beaucoup de mots relatifs à la violence notamment. Parce que, tandis qu'aujourd'hui on vit dans une époque de violence, c'est certain, mais je crois qu'à l'époque c'était pas non plus... les routes n'étaient pas pavées de pétales de rose. Inondé de miel et de lait.
Juste une autre parenthèse pour vous situer l'esprit un peu moyenâgeux, parce que moi je suis rentré dans le Moyen-Âge comme on rentre en religion, c'est-à-dire que je cherche à convaincre tous les gens que le Moyen-Âge n'est pas de l'obscurantisme. Alors pour vous situer, tous les gens qui partaient en pèlerinage étaient super protégés, en ce sens que celui qui était pris sur le fait en train de dévaliser et de tuer un pèlerin était aussitôt pendu ou tué.
C'était le bon temps.
Et lorsqu'ils passaient devant un château et qu'ils avaient faim, le châtelain avait une obligation, le comte ou le baron ou n'importe qui, avait une obligation de lui donner exactement les mêmes mets que ceux qui mangeaient à sa table. C'est-à-dire que s'il invitait un baron, un comte ou un autre qui avait un repas somptueux, le pèlerin était tenu de manger comme le baron. Et la baronne était tenue de soigner les pèlerins de ses mêmes propres.
Je lisais...
Malin, c'est des sacrées bonnes nouvelles que nous apporte ce visiteur.
Un bouquin sur Paris, et il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'ils indiquent dans ce bouquin que, parce que d'ailleurs c'est pas un bouquin, c'est le Hilairet. Il indique que rue Saint-Denis, je crois que c'est à l'auteur du 226 ou quelque chose comme ça, il y a un endroit où existait une taverne dans laquelle les condamnés à mort qui étaient conduits en charrette jusqu'au gibet de Montfaucon festoyaient avant d'aller se faire pendre. C'est ahurissant ce que ça représente sur le plan des mentalités. C'est-à-dire qu'on mettait les gens dans la charrette, on les emmenait à Montfaucon, et sur la route on disait, bon, avant d'y aller on va peut-être casser une petite graine. Hein. Et ils descendaient dans l'auberge, et ces gens qui allaient mourir une demi-heure plus tard mangeaient, buvaient, et puis ensuite ils montaient dans la charrette et ils allaient sur
Dieu. Ils croyaient vraiment à la vie éternelle à cette époque-là.
Je crois qu'ils croyaient réellement à la vie éternelle.
Autre chose qui rejoint ce que vous venez de dire, c'est que vous avez tous entendu parler des ribauds et des ribaudes. Ouais. Alors on en a fait un terme qui est complètement dévoyé, en ce sens que les ribauds étaient des gens qui avaient fait des choses horribles, et on leur donnait une chance de mourir dignement. En ce sens que les ribauds étaient les premiers à faire l'échalade ou l'escalade des murs, c'est-à-dire qu'ils avaient 99,9 chances sur 100 d'y passer. Mais c'était dans l'optique du Moyen-Âge, c'était une réhabilitation d'une mort moins sordide que celle du... Et celui qui en réchappait avait la vie libre, mais il se devait d'intercéder auprès des malades, auprès des choses comme ça.
Voilà, alors on va pas lire tout le dictionnaire, mais je le répète, c'est un bouquin merveilleux.
Un auditeur vous demande, ouais. Est-il exact que le terme charcutier vient de ce qu'on appelait au Moyen-Âge les chers cuitiers, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés de faire cuire la viande?
C'est cela même. Alors, de même, je tiens à préciser dans le même ordre d'idées, les bouchers ne s'appelaient pas, contrairement à ce que l'on pense boucher au Moyen-Âge, mais s'appelaient les mazeliers. Ça venait du mazel, qui était le marteau qui servait à tuer les bœufs. Et savez-vous d'où vient le mot boucher?
Pas du tout, non.
Les bouchers viennent de boucs, parce qu'ils tuaient les boucs
oui.
Puisqu'on mangeait les chèvres et les boucs au Moyen-Âge, mais ils étaient beaucoup plus rares que les mazeliers. D'ailleurs, il y a très souvent dans des villes des rues des mazeliers.
Oui.
Et il y a un nom de famille qui s'appelle mazelier.
Ah, il y a un beau mot, c'est buvet, B-U-V-E-E, qui à la surprise générale veut dire coup à boire.
Il y a tout un tas de choses très, très joyeuses au Moyen-Âge.
Ah, mais on sent que c'est une vie très, très charnelle, très, très forte. Et puis on voit, alors, autre chose pourquoi on peut s'amuser à lire ce livre, c'est pour trouver l'origine de certains noms propres, de certains noms de famille. Oui, oui. Alors là, je vois, par exemple, il y a le mot Bodo. Moi, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Bodo. Et ça veut dire, je viens de le passer à l'instant, ça veut dire Bodo, vous vous souvenez ce que ça veut dire?
Je ne l'ai pas en tête, par contre pour vous situer, Bess, tout le monde connaît Bess.
C'est le messager, ça vient
voilà,
de
l'allemand. Voilà, le messager, oui. Bess veut dire boulot, l'arbre, hein, ouais. au Moyen-Âge.
Et Rondeau?
Pardon?
Rondeau.
Rondeau, c'est une petite...
Rondeau, c'est une petite danse. C'est une petite danse.
Mais il faudrait que vous nous fassiez une démonstration un jour de Rondo. C'est aussi d'ailleurs une petite poésie, non?
Veneziano. Voilà. Il y a le Rondo Veneziano qui est très connu.
Voilà. Mais je vous remercie d'avoir fait.
C'est moi qui vous remercie.
C'est le dictionnaire médiéval de Jean-Denis Faurie de Vassal, F-A-U-R-I-E, de particule Vassal, V-A-2-S-A-L, qui est un homme dont son accent trahit immédiatement l'origine.
Ah oui, c'est le capitaine Fracasse en même temps qu'un visiteur.
Alors c'est le physique du capitaine Haddock,
oui.
La voix du capitaine Fracasse et l'allure chevaleresque du visiteur.
Arrêtez, vous allez me faire rougir.
Le film, les visiteurs.
Vous allez me faire rougir, il y a 20 ans que ça m'est pas arrivé. Ça
C'est aux éditions du Alpha qui ont un site internet qui s'appelle dualpha.com et je pense que le livre
que
est en
vente. Vous pouvez trouver Rue Primatis.
Voilà.
Rue Primatis.
39 euros, et il les vaut largement.
Rue Primatis dans le 13e, c'est juste derrière la mairie du 13e et le métro du même métal. Serge, il nous reste à peu près 10 minutes pour satisfaire l'agent du Libre Journal et celui de la Marche pour la Vie. Comment allez-vous faire?
Eh ben, je vais donner d'abord la parole à Monsieur Wouters qui a exactement 5 minutes pour nous convaincre d'aller marcher pour la vie.
Top chrono.
Chaque année, top chronomètre.
Voilà, merci Serge de m'accorder ces 5 minutes. Je ne croyais pas les avoir en définitive. D'abord, je vais dire un mot sur Jean Ferré, parce qu'on peut dire que Jean Ferré est une des bonnes fées qui s'est penchée sur le berceau de Renaissance catholique, et ça depuis très longtemps, puisque c'était le 7 octobre 1990 à la Mutualité, où Jean Ferré a fait une conférence absolument prodigieuse devant presque 2000 personnes. La Mutu était absolument pleine, et il avait reçu des pressions, il était arrivé avec une heure et demie de retard, parce qu'il avait reçu des pressions énormes. pour ne pas venir à cette mutualité qui était une mutualité du combat pour la vie de Renaissance catholique. Voilà, donc ça, je pense que tous les militants, tous les adhérents de Renaissance catholique auront une pensée, sont vraiment émus de ce départ, évidemment, qui est toujours trop tôt. Voilà, donc, et je pense aussi à Michel Valadier qui est venu très souvent à l'antenne de Jean Ferré pour parler des différents combats. Et qui maintenant mène d'autres combats, mais qui a été invité très très longtemps, à de nombreuses reprises, Jean Ferré, puis maintenant qui a son propre livre aujourd'hui. Oui. Voilà. Pour venir à cette marche, donc c'est très simple, bien sûr, trois rendez-vous possibles, enfin quatre, mais il vaut mieux venir bien sûr à la basilique, devant la basilique, sur le parvis de la basilique Notre-Dame des Victoires, à 17h30, départ à 18h. Pour ceux qui ne peuvent pas faire toute la marche, vous avez également la possibilité de rejoindre à 19h devant l'Opéra, 19h30 place Clichy, ou 20h pour le salut du Saint-Sacrement à la basilique, bien sûr, de Montmartre. Voilà, je vais vous donner deux intentions de prière particulières pour, bien sûr, j'espère que ces intentions de prière auxquelles on pourra prier ensemble sur cette famille qui était membre de Domus Christiani et qui a été assassiné à Rabat, je crois de mémoire c'était le 15 septembre 2006, en laissant quatre orphelins. Voilà. Donc c'est vraiment, il laisse quatre petits orphelins de 10 ans à 4 ans. Et il s'agit donc de la famille des Lusignano. Lui était italien et elle belge. Et ils ont été assassinés dans leur maison, pratiquement devant leurs enfants. Ils assuraient une mission diplomatique temporaire de la Commission européenne. On n'en a pas beaucoup parlé. Je dois dire qu'il y a un quotidien du matin de la presse Bobo qui en a dit quand même un mot et qui lui considère que c'est tout à fait, bien sûr, c'est un cambriolage qui a mal tourné, mais apparemment ça n'est pas ça n'est pas tout à fait la réalité. Je voulais dire aussi une intention de prière pour un petit Bruno qui est le dixième donc d'une famille et qui vient de naître, qui est le 2 octobre, en la fête des saints anges gardiens. Bah, c'est un petit enfant qui est donc aujourd'hui qui a 8 jours et qui, je dirais, est un petit peu différent des autres. Alors, c'est pas toujours facile parce que c'était une surprise pour son papa, sa maman et pour ses grands frères et sœurs, dont l'aîné a 12 ans. Donc, vous voyez, c'est un petit monde qui est très, très rapproché. Voilà. Donc, si on pouvait avoir une pensée pour ce petit Bruno, qui évidemment aura une vie peut-être pas toujours facile, mais merveilleusement entouré par ses parents. Voilà. Et puis alors, plus généralement, mais il faut dire que dans le monde du respect de la vie, ça va pas très fort, puisque vous avez d'un côté ces déclarations de Bernard Debré sur l'eugénisme de liberté qu'il revendique, en s'empressant de dire qu'il s'agit d'un eugénisme très différent de l'eugénisme nazi, et qui affirme que l'embryon n'est rien d'autre qu'un tas de cellules et ne doit pas être déifié. Voilà.
Peut-être dans la famille Debré, ça c'est possible.
Voilà, alors est-ce qu'un petit tas de cellules est différent?
Il paraît qu'on dit qu'il tient Debré en dessous de zéro.
On l'appelait effectivement.
Voilà, je voulais dire aussi, alors il y a aussi des.
Son père en tout cas.
Il y a aussi des nouvelles qui ne sont pas très bonnes. Ça, c'est ça vient du quotidien de référence. Celui-là, il est le quotidien de référence du soir. Je lis juste deux lignes. Il y aurait des équipes britanniques vont créer des embryons mêlant l'humain à l'animal. Ça, c'était l'extrait du quotidien britannique The Guardian. Ceci serait obtenu à partir d'un noyau de cellules humaines placées au sein d'un ovocyte de lapine ou de vache. Voilà. Donc alors ça, ce sont des intentions de prière parce que je crois que là vraiment le monde ne va pas très fort entre Debré, le tas de cellules, le clonage thérapeutique, le génie de liberté, et puis
ouais, le bon Dieu est extrêmement patient. Hein. Ou alors il n'y a plus de feu du ciel, il n'y a plus de piles là-haut, je ne sais pas, peut-être lui faire livrer.
Alors donc, conclusion, bien sûr, venez à la marche pour la vie. Ceux vraiment qui ne peuvent pas venir, qu'ils prient chez eux, qu'ils se joignent à nous par la prière, un peu comme pour les pèlerinages, maintenant il y a des pèlerins non marcheurs, bien là c'est pareil. Mais sauf qu'il faut vraiment, si on peut venir, même on peut venir en famille, je le précise, on peut très bien venir toute la famille, il n'y a aucun problème, il n'y a jamais eu aucune bagarre, aucune... Parce que parfois les gens ont peur de c'est la 16e fois, il n'y a jamais aucun problème.
Il faut dire qu'il y a un service d'ordre qui est discret.
Il y a un très bon service d'ordre de l'Église catholique.
Mais très efficace.
Et puis il y a aussi, on est protégé aussi par les gendarmes mobiles ou par les compagnies républicaines de sécurité.
Le vieux principe, la peur n'évite pas le danger.
Non, bien sûr.
Et voilà. Merci, monsieur
Wouter. Et le rendez-vous est le samedi 14 octobre.
Voilà.
Merci, Victoria. Je le redis, samedi 14 octobre, donc c'est dans 4 jours, il ne faut pas oublier d'y aller. Voilà, 17h30, devant Notre-Dame des Victoires. Voilà.
Mais Notre-Dame des Victoires, qui est au métro Bourse. Alors, je le sais parce que j'ouvre le Libre Journal à la page 19 et je trouve donc votre annonce qui orne une double page sur le sujet de l'avortement. En l'occurrence, c'est celle du docteur René Féjean, ancien chef de département à la faculté de médecine de Paris 13. En face, nous avons reproduit une homélie de Monseigneur Santaine, évêque de Vannes, qui est très clairement contre l'avortement également, aussi surprenant que ça puisse paraître de la part d'un évêque.
Mais oui.
Je parle du numéro 388 du Libre Journal imprimé. Je dois dire d'emblée qu'on a eu beaucoup de succès avec le numéro précédent où nous avions eu l'idée de publier l'intégralité du discours de Ratisbonne de Benoît XVI, puisque nos gros confrères des gros médias énergumènes et extrémistes avaient diffusé eux leurs commentaires et quelques extraits simplement de ce discours. Nous, plutôt que des commentaires, on a imprimé l'intégralité de ce discours dans le numéro 387 du Libre Journal. On a eu beaucoup de succès et donc on recommence, même procédé. Tout le monde a entendu parler du rapport du préfet Monsieur Cordet de Seine-Saint-Denis à Monsieur Sarkozy, qui a d'ailleurs fait un peu perdre la tête à celui-ci puisque il nous est revenu par le canard enchaîné qu'il avait piqué une véritable crise de nerfs, insulté les policiers pour les résultats dont il est peut-être lui aussi un petit peu responsable, quoi qu'il les impute non seulement aux policiers mais à la justice. Alors le Monde a publié des lambeaux de ce rapport en l'entrelardant de ses commentaires, les lambeaux évidemment qui lui convenaient, en l'entrelardant de commentaires interminables. Nous, même procédé, on dispense les gens de nos commentaires et on publie l'intégralité de ce rapport dans le numéro 388 du Libre Journal. On me fait signe que le temps court.
Vous êtes en partie.
Voilà, donc j'abrège en une minute. Affaire Seznec, on vous l'a peut-être pas présenté, on vous en a parlé dans les gros médias de la Xème révision. Notre résumé à nous, c'est que le vrai coupable est un indigène. Tous les détails dans le Libre Journal. Retour au Vatican, le nouveau ministre des Affaires étrangères est un expert islam et notre vaticanologue à nous vous en parle dans les moindres détails. Et puis François Brignot nous se demande si Valmy conduira Le Pen à Austerlitz ou Waterloo. Voilà, je présentais très rapidement le Libre Journal imprimé numéro 388. Si on veut se le procurer en spécimen, on envoie un carnet de timbres, de préférence, 5 euros à la rigueur. Si on veut s'abonner, c'est 110 euros pour un an, pour 3 numéros par an. 4 à l'ordre de SDB, 4 place France List, 75 010, Paris.
Voilà, je vais vous faire mes adieux en médiéval. Alors je vous dirais, assez jasé, midons, assez de joc et de partiment. Ce qui veut dire assez parler, messieurs,
diante.
Assez de bavardage et de discussion. Nous allons maintenant nous séparer pour une semaine.
On redonne l'adresse.
L'adresse, bien sûr.
Alors, l'enterrement de Jean Ferret aura lieu lundi prochain à 15h15 en l'église, si j'ai bien compris, Saint-Germain, devant le château de Saint-Germain-en-Laye, RER par le RER A. C'est bien ça.
C'est bien, merci. Merci à tous. Bonne semaine que vous consacrerez à la découverte de ce dictionnaire médiéval de Jean-Denis Fauri de Vassal paru chez Dualpha. Remarquable dictionnaire, je le répète.
Merci beaucoup.
Dans 15 jours, en ce qui me concerne, sauf erreur, non ? Quand est-ce qu'on se retrouve ? Je ne sais plus, moi. Je ne sais plus comment on vit. Non, à la semaine prochaine, pardon.
À la semaine prochaine. Le journal est bouclé mardi.
Donc à la semaine prochaine, je pense que nous recevrons un invité qui vous fera plaisir d'entendre. D'ici là, que Dieu nous garde.
À 21h tout à l'heure dans les soirées musicales en hommage à Jean Ferré, nous avons décidé de diffuser le Requiem de Mozart. Et puis ensuite, Claudio vous parlera de sa discothèque pour connaisseurs et amateurs. Tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 11 octobre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 12 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Bernard Anthony au micro. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je prends le relais de Serge de Beketch, que je remercie. Je suis là avec Cécile Montmirail, que vous connaissez, avec Jeanne, journaliste, avec Jeanne Smith, directrice de Présent, avec Daniel Amand, docteur en philosophie, docteur en mathématiques, universitaire, et bien sûr aussi avec Victoria. Naturellement, je ne peux pas ouvrir cette émission sans évoquer Jean Ferré. Je n'étais pas un intime de Jean Ferré, je suis un provincial, je ne viens pas toujours à Paris, il ne venait pas souvent à Paris. Nous nous rencontrions donc de loin en loin, toujours avec beaucoup d'affection, de chaleur. Je n'oublie pas comment il m'avait reçu ici, comment il avait fait tout ce qu'il pouvait pour la diffusion du dictionnaire de la réplique. Et je sais ce qu'il a apporté au combat national, combien Radio Courtoisie, grâce à lui, a pu être cette radio du pays réel, c'est si bien intitulé, une radio d'hommes libres, d'hommes libères, parce qu'il peut y avoir des libéraux, nous n'en sommes pas, du moins autour de cette table, mais nous sommes des êtres libères, comme on disait autrefois. Et Jean Ferré était un homme libère, et surtout, il s'était engagé, et pour cela, je l'aimais, dans le combat pour l'Algérie française, mettant sa peau au bout de ses idées. Il avait donc dû s'exiler. Et voilà pourquoi nous avons pour lui, nous saurons avoir les prières qu'il mérite. Je ne peux pas l'évoquer sans évoquer un autre ami que nous venons de perdre. Il avait quitté Paris depuis quelque temps, mais il dit beaucoup à la même mouvance. C'est Jean Cohn. Jean Cohn a été un homme admirable qui, lui aussi, a combattu pour la défense de l'Algérie. Il était le responsable des étudiants d'Action française à Toulouse, très brillant. Il multipliait les diplômes. Il était un élève de Louis Junier, du professeur Montané de la Roque. et puis guerre d'Algérie, et enfin il s'engage pour la défense de l'Algérie française. Cela lui vaut la prison dont il s'évadera. Il est le premier évadé de la prison de Mont-de-Marsan, et puis il créera le Livre Poste, cette librairie que connaissait bien Serge de Bekech, et voilà. Et puis il me rejoint dans le Tarn pour une retraite après avoir eu la douleur de perdre son épouse. C'était un ami de tous ceux donc qui militaient comme nous pour le combat culturel, puisque en ce moment c'est le combat culturel qui compte le plus, ce n'est pas celui qu'il avait pu mener comme Jean Ferret à une autre époque. Ce soir, notre actualité est riche. Nous avons beaucoup de choses à réfuter. Plus que jamais, c'est l'heure de la réplique. Plus que jamais, c'est l'heure de la réplique. D'ailleurs, pour que nul n'oublie, le 22 octobre, à Villepreux, au domaine de Grand Maison, nous allons consacrer une journée entière à la réplique médiatique. J'ai appelé le Tchernobyl médiatique l'ensemble de ces ondes malfaisantes qui, donc, par nos chaînes de télévision, par la grosse presse, irradient tout ce qu'ils peuvent de décomposition de notre peuple. Face à cela, il y a Cécile Montmirail en parle souvent avec beaucoup de talent. Il y a donc une résistance, notamment par Internet. Il y a, à côté de Radio Courtoisie, ce qui est excellent, donc tous ces sites, dans lesquels il y a aussi un espace de liberté, et il faut que tout cela soit mis en synergie. Synergie, donc, entre Radio Courtoisie, présent, le Libre Journal, la revue que j'anime avec passion, Reconquête, les sites, Vox Gallier, le Salon Belge, les blogs d'Yves Daoudal, que Saint-Jean-Cor, tout ça, c'est la famille de la résistance, c'est la famille qui dit non à la chape de plomb totalitaire, dont on va voir ce soir que même Aldous Huxley, même Orwell n'auraient pas imaginé un certain nombre de choses que nous apprenons aujourd'hui. Voilà, alors, qui veut commencer parmi nos invités ? Peut-être Jeanne Smith.
Je voulais simplement dire, merci Bernard, un petit mot également à la mémoire de Jean Ferret. J'avais eu l'honneur d'être invité par lui en votre compagnie. Je le connaissais donc très peu, mais je sais tout ce qu'il a fait et j'admire cette radio.
C'est vrai, nous étions ensemble.
Nous étions ensemble. J'admire cette radio qui tient depuis 20 ans. Je sais toute la difficulté qu'il y a à faire marcher des choses comme ça. Et cette radio de toutes les droites, eh bien, j'espère qu'elle restera longtemps. Et c'est le vœu que je formule aujourd'hui en disant que Présent appelle souvent à l'aide ses lecteurs avec succès, je dois le dire, et je leur en remercie. Je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie sauront montrer de la même façon leur attachement à cette radio qui donne la parole à un Bernard Anthony et puis à beaucoup, beaucoup d'autres, à Présent très souvent et à beaucoup de personnes qui nous sont chères.
Beaucoup d'actualités, Jeanne, je crois, concernant tous les problèmes éthiques. Et vous avez relevé cette semaine de l'actualité à laquelle, je crois, il faut répliquer.
Eh bien, la première nouvelle dont beaucoup de blogs, puisque nous parlions d'eux, ont parlé, c'est cette décision britannique de permettre à des scientifiques de faire des embryons mi-hommes, mi-animaux. Non, c'est pas exactement ça. C'est un peu plus compliqué. On va prendre un ovule d'animal et de vache en l'occurrence, et y implanter du matériel génétique humain pour faire développer un embryon. Donc à partir d'un ovule de vache et du matériel génétique humain, fabriquer un être dont on nous assure qu'il sera à 99% humain, ce qui est quand même assez curieux, on est homme ou on ne l'est pas. Mais voilà où en sont arrivés les scientifiques fous qui ne font réellement plus de distinction entre l'homme et l'animal. C'est cela qui justifie leur démarche. Et pourquoi le font-ils ? Ils le font pour faire de la recherche, pour essayer des médicaments, pour voir si un défaut génétique peut être traité, s'il peut être manipulé, si on peut le suivre dans le temps. Et donc toutes ces applications prétendument scientifiques et thérapeutiques, eh bien, servent de prétexte à une folie folie générale et une folie que l'on rencontre, je dirais, plus dans le monde anglo-saxon qu'ailleurs. Ainsi, en Australie, il existe des projets tout à fait similaires, comme ils sont appliqués dans les pays communistes ou anciennement communistes, où nous avons le même genre de dérive de la recherche. Ça vient d'une erreur sur la nature de l'homme, tout simplement.
Alors là, Jeanne, je crois que vous touchez de très près les très grandes questions. Et je pense que nous avons la chance aujourd'hui, je parle en catholique, d'avoir un pape pour notre temps. Parce que la conférence de Ratisbonne de Benoît XVI a exactement porté ce problème-là. Les rapports de la foi et de la raison, et surtout, au fond, ce monde moderne, rationaliste qui déraisonne. Hein. Et là, je pense que, évidemment, on a largement déformé, sollicité, manipulé, je n'y reviendrai pas, ça a dû être traité par d'autres à cette radio, ce qu'a dit le pape Benoît XVI, dont je considère, pour ma part, que c'est une très très grande conférence qui mérite d'être commentée, travaillée. D'ailleurs, le Centre Charlier, nous l'avons décidé il y a quelques heures, va en procéder à un tirage spécial. Ça sera une belle édition commentée par nos meilleurs cerveaux. Et là, je m'adresse donc à Daniel Amand pour avoir sa réaction sur cette conférence de Ratisbonne. Voyez-vous, au fond, d'un côté, ce que dit Jeanne Smith, la folie, l'apprenti sorcier, l'homme devenu fou, ce que que Orwell et Huxley n'imaginaient pas, pardon, et là, David, que pourriez-vous nous dire, Daniel Amand, puisque David est un de vos autres prénoms, Daniel Amand sur dans la conférence de Ratisbonne.
Il s'agit effectivement d'une conférence absolument majeure, magistrale, donc prononcée par Benoît XVI à l'occasion de son séjour en Bavière, sa terre natale, un voyage qui a été préparé de longue date et de très haute importance pour lui, bien évidemment, autant d'un point de vue symbolique que pastoral. C'est un voyage au cours duquel le pape a eu l'occasion de prononcer une série d'interventions et de conférences, toutes de très haut vol. Donc la conférence de Ratisbonne n'est qu'en quelque sorte que l'apothéose d'un ensemble d'interventions augurées 3 jours plus tôt par, entre autres, une très très belle homélie dans la cathédrale, prononcée dans la cathédrale de Munich, où là aussi Benoît XVI a annoncé des choses extrêmement fortes. Cette conférence donc de Ratisbonne, c'est un moment particulier pour Benoît XVI, puisque c'était un retour aux sources de sa carrière universitaire. C'est en tant qu'universitaire qu'il s'est rendu sur place, selon les us et coutumes du monde universitaire allemand, un lieu où effectivement l'université reste une institution très noble, et justement un lieu où la raison s'exprime à plein, en tout cas elle a cette vocation. En l'occurrence, c'est vrai que Benoît XVI a prononcé devant un parterre de savants et d'universitaires de haut vol une conférence extrêmement profonde, extrêmement ambitieuse, touchant à un des aspects fondamentaux de la foi chrétienne, qui est à la fois son articulation à la raison, et puis deuxièmement, la question de son rapport à la vérité, et donc de son enracinement dans l'objectivité du réel. Donc cette notion d'articulation entre foi et raison a vraiment constitué le cœur de cette intervention. Elle a permis aussi de faire de balayer de manière extrêmement profonde toute l'histoire du christianisme, en montrant pourquoi, justement parce que l'Europe, à travers l'héritage grec, avait été la terre propice à l'épanouissement de cette raison, eh bien pourquoi ça avait été aussi la terre d'élection et de diffusion principale du christianisme, et particulièrement du catholicisme. Sans oublier bien sûr les églises d'Orient, ou les communautés d'Orient, mais vraiment, Benoît XVI a fait là un lien extrêmement fort entre l'Europe, dans sa vocation historique, la raison comme héritage grec, et cette expansion, cette inculturation du catholicisme, de la vérité de la foi chrétienne dans la terre européenne. Donc c'était vraiment aussi un texte qui, d'abord et avant tout, me semble-t-il, resituait et redonnait à l'université sa mission première, d'être un lieu de dialogue intellectuel et d'échange pour approfondir ces liens entre la foi et la raison et redonner à l'Europe cette mission forte d'être effectivement un terrain où la raison et les lumières de l'intelligence puissent s'exprimer à plein.
Jeanne Smith veut dire, prendre la parole.
Évidemment,
je vous poserai une question après.
Évidemment, j'abonde dans votre sens. Je suppose que vous avez vu que Benoît XVI a reçu de nouveaux ambassadeurs, ceux de Slovénie, ceux de l'Autriche, ceux d'Allemagne. Et ce qu'il leur a dit, c'est soyez vous-même. Vous avez dans votre terre européenne un droit. Le christianisme, il y a un droit d'être lui-même et de se mettre en avant. C'était tout à fait frappant. C'était également une réponse à un certain néopaganisme qui voudrait que le christianisme ait été faussement greffé en Europe, alors que ça n'est pas ça. C'est bien ça que vous dites, Daniel Amand.
Absolument. Il y a là, je crois, une sorte de grille de lecture extrêmement fine que fait Benoît XVI, qui consiste a précisément refusé d'entrer dans une logique de choc des civilisations au sens purement politique, a refusé aussi peut-être les limites d'un certain dialogue interreligieux qui consisterait à dire finalement chacun voit midi à sa porte, chacun est dans sa religion, chacun respecte l'autre, mais personne finalement ne se parle parce que tout le monde reste au niveau de ses dogmes, mais a resitué le dialogue sur un plan davantage culturel, irrationnel, intellectuel, en disant finalement qu'est-ce qui fondamentalement fait la vérité du christianisme, pourquoi cette vérité peut-elle s'exprimer à travers la raison, et la réflexion va très loin puisqu'elle rattache directement cette réflexion à la raison, au Dieu trinitaire, c'est-à-dire au Dieu dont la seconde figure est le logos. Logos signifiant à la fois le discours et la raison.
Je crois pouvoir citer ici un témoignage d'un de nos amis très brillant qui est venu à Radio Courtoisie avec moi, qui est agrégé de philosophie, qui est docteur en médecine, qui est agnostique. Et qui m'a dit, c'est un des plus beaux textes philosophiques que j'ai jamais vu, parce que quand même, c'est quelque chose qui nous interpelle, comme on dit aujourd'hui, parce que comment, en effet, pouvoir créer un monde dans lequel on ne s'interrogerait plus sur les causes, sur la cause de notre existence, de notre être. La question que je vous pose, Daniel, vous êtes, c'est assez rare, vous méritez d'être admiré pour cela, simultanément docteur en mathématiques, docteur en philosophie. Quel est, en tant que mathématicien, quel regard avez-vous sur la causerie de Ratisbonne?
Alors effectivement, un regard extrêmement intéressé, puisque c'est évidemment une thématique sur laquelle je me suis penché personnellement depuis plusieurs années, avec également un certain nombre de mes collègues mathématiciens, qui sont les premiers d'ailleurs à se poser souvent avec beaucoup d'acuité et de finesse cette question de l'articulation entre leur foi et leur raison. Parce que contrairement à ce qu'on dit, il y a beaucoup plus de savants croyants, en tout cas à un très haut niveau, que de savants athées ou en tout cas bêtement anticléricaux. On a la chance en tout cas d'en avoir un certain nombre d'éminents représentants en France. Par contre, évidemment, il y a cette nécessité pour le savant, pour le mathématicien en particulier, d'articuler toujours sa recherche de la vérité avec un esprit de curiosité et une soif de vérification. Or, ce que a très bien mis en avant Benoît XVI dans ce texte, c'est effectivement la nécessité à la fois de sortir d'un cadre purement, j'allais dire, expérimental, dans lequel la science dirait tout et exclurait d'office du discours tout ce qui ne serait pas de l'ordre de la vérification en éprouvette, et donc qui éliminerait Dieu comme un concept non rationnel, ce qui effectivement mettrait tout de suite les religions du côté de l'irrationnel. Et inversement, il a insisté sur la nécessité pour les scientifiques de poursuivre au mieux leur travail d'approfondissement, de quête de la vérité, avec cette conviction intime, je crois qui est vraiment très chère à Benoît XVI, qu'il y a une seule et même source de la vérité, celle que nous découvrons dans la création à travers la lecture scientifique de l'univers, et celle que nous découvrons dans la Bible et le magistère à travers la lecture de la révélation.
Pour vous, mathématiques et philosophie, c'est la même recherche?
ce sont deux voies d'expression d'une même recherche de la vérité. Et le troisième triptyque, le troisième terme du triptyque, c'est la théologie. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que Benoît XVI donne là, ici, une place à chacune de disciplines en tant que science, avec cette exigence pour chacune d'elles de pousser au maximum le travail d'intellection, d'intelligibilité, de recherche de la vérité. Si vous me permettez juste de citer un tout petit peu ce passage où véritablement Benoît XVI s'apesantit sur cette question, c'est à la fin de son discours, donc de Ratisbonne. Benoît XVI explique que dans le monde occidental, on tient largement que seule la raison positiviste, alors souligner c'était adjectif. Il ne s'agit pas de la raison en tant que telle, mais de la raison positiviste, c'est-à-dire d'une raison enfermée dans des limites extrêmement étroites, celles que Kant ou Auguste Comte ont voulu assigner à la raison, et qui en fait l'ont en grande partie mutilée. Puisque tous les grands mathématiciens, tous les grands savants du XXe siècle savent que la vérité scientifique n'a pas été la vérité d'Auguste Comte ou d'Emmanuel Kant. Eh bien, dans ce monde occidental, donc où l'on tient que la raison positiviste et les formes de philosophie qui se fondent sur elle sont universellement valides, il existe d'autres voies. Les cultures profondément religieuses du monde considèrent cette exclusion du divin de l'universalité de la raison comme une attaque contre leurs convictions les plus profondes. Une raison sourde au divin, ce terme de surdité que Benoît XVI emploie ici, qu'il avait déjà employé deux jours plus tôt dans son discours homélie à Munich, où il dénonçait en quelque sorte une surdité de l'Occident, surdité à Dieu, où on oubliait trop effectivement cette dimension de la révélation et de la transcendance. Donc, une raison sourde au divin qui relègue la religion au domaine des sous-cultures est incapable d'entrer dans un dialogue des cultures. En même temps, comme j'ai essayé de le montrer, la raison scientifique moderne, avec son élément intrinsèquement platonicien, porte en elle-même une question qui l'amène au-delà d'elle-même et au-delà des possibilités de sa méthodologie. La raison scientifique moderne doit tout simplement accepter la structure rationnelle de la matière et la correspondance entre notre esprit et les structures rationnelles prévalentes de la nature en tant que fait donné sur laquelle sa méthodologie doit s'appuyer. Donc là, une double exigence, à la fois contre une certaine tentation de certains scientifiques étroits, une tentation de mutiler la raison en l'enfermant dans des voies trop étroites, en disant finalement la raison ne peut que se cantonner qu'à ce qui est vérifiable en laboratoire. Non, les mathématiques, c'est pas nécessairement le résultat d'un processus expérimental enfermé dans une éprouvette. Les vérités scientifiques ne s'enferment pas dans le corps de doctrine d'Auguste Comte ou de Darwin. Et en même temps, une nécessité pour les scientifiques de pousser au maximum, effectivement, cet approfondissement, non seulement de la connaissance de la matière, mais plus intéressant encore, de l'articulation, la correspondance, le terme précis, entre notre esprit et les structures rationnelles prévalente de la nature. C'est-à-dire, c'est le retour à cette phrase d'Einstein, ce qui est absolument inintelligible, en tout cas extraordinaire, c'est que le monde soit intelligible. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre ce que nos conceptions mathématiques nous permettent d'élaborer et ce que l'univers nous révèle de lui-même à travers, effectivement, les procédures expérimentales qu'on met en œuvre.
Merci Daniel.
Jeanne, oui, j'allais dire, ce texte qui est d'une grande intensité et d'une grande profondeur, eh bien, il n'était pas directement recevable par le commun des mortels. Et on a vu quel charcutage l'a suivi avec les conséquences qui s'en sont suivies dans une certaine partie du monde musulman. Et puis, il y a eu, dans la foulée de cette affaire, l'affaire Redeker qui en quelque sorte en est l'enfant. Bien sûr. L'enfant tout à fait adultérin. Bernard, je crois que vous souhaitez intervenir maintenant sur Robert Redeker.
Oui, parce que c'est en quelque sorte, donc on va redescendre un tout petit peu, parce que les perspectives ouvertes par Daniel Amand sont, je crois, tout à fait remarquables, et je lui demanderai évidemment un gros travail pour cette édition commentée que nous allons faire de la conférence de Ratisbonne, mais les idées mènent le monde, on le voit bien, et au fond, quelle est la différence entre l'islam, une des différences, en dehors même du sens de Dieu que nous avons mélangeons entre l'islam et le christianisme, c'est que l'islam n'a pas reçu, somme toute, la raison grecque. On dit que nous l'avons reçu, nous, par les savants arabes. Il faut quand même dire oui, pourquoi pas. Ces savants arabes étaient souvent chrétiens, on oublie trop de le dire. C'était les chrétiens syriens. Et on oublie aussi de dire, n'est-ce pas, M. Boubalter, qu'un Véroès n'est pas du tout reçu dans l'islam, mais que donc l'islam, globalement, a refusé, avec Ibn Taymiyyah, l'héritage grec. D'une certaine manière, le judaïsme aussi, depuis il s'est repris, mais enfin, Maïmonide, hein, donc c'est vraiment la fermeture, donc au bout d'un certain moment, à l'héritage aristotélicien, mais c'est un autre débat. Alors, on a vu monter au filet, paradoxalement, pour défendre ce que disait Benoît XVI, mais pas sur le fond, non pas traité, donc, comme vient de le faire Daniel Amant, uniquement dans cette partie qui a été utilisée par les musulmans, qui ont été eux-mêmes utilisés au demeurant, hein, puisque là, il y a une gigantesque manipulation. Dans le texte de Benoît XVI, il y a très peu sur l'islam, mais les journalistes qui ont commenté cela n'ont évidemment pas lu sa conférence, n'y comprennent en général rien.
Oui, je voulais dire que effectivement, ce Robert Redeker réagit sur les phrases de Benoît XVI qui ont été interprétées totalement à tort comme souhaitant le choc des civilisations, mais je dirais que à l'inverse, les non-musulmans s'opposant aux musulmans sont entrés dans la même dialectique, exactement.
Oui, alors que le débat était tout de même à un autre niveau. Alors
on retrouve cette notion de surdité précisément que dénonçait Benoît XVI. On a eu affaire véritablement à un dialogue de sourds à partir de gens qui ne lisaient pas les propos même de Benoît XVI, ou en tout cas qui étaient parfois même incapables de se hisser à son niveau et à la hauteur de vue qu'il avait essayé de développer.
Alors pour ce qui est de Redeker, je le défends. Et en même temps, je le critique. Je le défends parce que tout de même, il a eu le courage d'écrire dans le Figaro un certain nombre de choses sur l'islam. Peut-être aurait-il dû tourner sa plume, mais enfin, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Enfin, quand il parle de la personne du prophète, je regrette tout ce qu'il dit. C'est dans la Sira, c'est-à-dire la biographie musulmane du prophète. Nous n'inventons pas donc le Mahomet guerrier, le Mahomet cruel, enfin tout ça, c'est donc dans ses faits et gestes, les hadiths, dont nous n'allons pas chercher ailleurs que dans les textes musulmans eux-mêmes. Et d'ailleurs, à l'appui de Redeker, il y a un film que nous avons passé cet été à l'université du Sainte-Charlier en Italie, c'est le film qui s'appelle Le Messager, qui est un film qui a été fabriqué sous le contrôle de l'université Al-Azhar du Caire et du Conseil supérieur chiite du Liban, et c'est le film donc qui narre la vie de Mahomet. On ne le voit jamais, on ne voit que son ombre ou la chamelle qui le portait. Alors Redeker donc a tout simplement dit sur l'islam, avec quelques erreurs, parce que il est dit-on professeur de philosophie mais il n'est pas historien, avec quelques approximations, un certain nombre de choses. Il a le besoin aussi, bien entendu, de rappeler donc combien, de même qu'il combat l'islam, il aurait combattu l'Église catholique à certaines époques, là aussi il y aurait beaucoup à dire, mais là où évidemment nous ne sommes pas d'accord avec lui, c'est quand il dit, voyez la pression de l'islam qui va par exemple, qui a réussi à faire interdire à Paris Plage le string et autres genres de choses. Bon, là je dois le dire, Redeker use d'arguments qui sont un peu, comment dirais-je, tels que ceux que l'on a par trop utilisés dans l'affaire des caricatures de Mahomet sur laquelle nous nous sommes exprimés. Hein. Nous n'opposons pas à l'islam, pour notre part, la décadence européenne. Si dire non à l'islam, c'est dire oui au prosélytisme homosexuel, dire oui à l'avortement, dire oui à la gay pride, évidemment, ça n'est pas notre combat à nous. Nous combattons nous refusons l'islam à un certain niveau, qui est effectivement celui de la façon dont nous avons reçu la révélation de Dieu. C'est aussi la conception que nous avons de l'homme, de la dignité humaine, de la femme. Nous n'allons pas revenir sur cela ce soir, mais il n'en demeure pas moins qu'en tant que Toulousain, en tant que voisin, j'ai reçu sans doute beaucoup plus de menaces que M. Redeker, qui a paniqué, je crois, très vite, trop vite. Donc, mais nous avons beaucoup, au fond, de commisération pour lui, et il est parfait parfaitement inadmissible que dans ce pays, donc un professeur comme lui, dont nous ne partageons pas loin de là toutes les idées, ne puisse quand même pas s'exprimer librement.
Nous parlions avant cette émission, Cécile Montmirail, des musulmans qui voient les Européens comme des chrétiens. Or, lorsque un musulman lit le texte de Redeker, il a l'impression donc de se trouver face à un chrétien. Mmh. Alors que, manifestement, c'est une erreur d'appréciation.
Il se trouve, Jeanne, effectivement, j'ai eu la chance de participer lundi soir à un groupe d'évangélisation des musulmans dans un esprit tout à fait chrétien, c'est-à-dire d'une immense charité. Je salue d'ailleurs Elisabeth, qui est à l'origine de ce groupe, et Fefa, si jamais elle nous écoute. Et donc, nous avons passé toute une soirée à rencontrer des musulmans, souvent issus d'ailleurs de l'immigration. Et au cours de ces discussions, qui étaient des discussions réellement profondes et dans l'esprit souhaitées par Benoît XVI, je me suis rendu compte que pour un musulman, un homme ne peut pas être sans religion, et que par conséquent, lorsque l'on n'est pas musulman et que l'on habite en France, pour un musulman, on est forcément chrétien. Et c'est la raison pour laquelle les musulmans se montrent choqués de l'attitude des chrétiens, puisqu'ils trouvent en face d'eux cette licence dont Bernard vous faisiez mention à l'instant. Or, donc, dans cette discussion fraternelle, je dois le dire, nous avons bien montré la différence qu'il y avait entre des chrétiens qui essayaient, autant que faire se peut, de se conformer aux évangiles, et puis les Français qui étaient ouvertement opposés au Christ et à son message. Mais c'est vrai que dans ce dialogue, il y a cette confusion possible chez les musulmans. Je voudrais d'ailleurs revenir sur le traitement qui a été fait de toute cette affaire dans les journaux. Effectivement, la façon dont ça a été traité est très éloignée de ce qu'a voulu dire le pape Benoît XVI. Et j'ai sous les yeux un article du Monde qui date du dimanche 24 et du lundi 25 septembre 2006 et qui titre « Les chrétiens de Palestine critique le pape sur l'islam ». Et lorsque l'on lit le texte qui a été écrit par Benjamin Barthes, un envoyé spécial à Ramallah, on se rend compte en fait que les chrétiens de Palestine n'ont pas du tout critiqué le pape sur ses propos sur l'islam, et au contraire, ils disent toute la difficulté qu'ils ont, puisqu'ils sont l'objet de violences de la part de leurs compatriotes palestiniens. Et donc il y a là toute la perfidie, je dois dire, des journalistes qui mettent un titre en exergue qui est une contre-vérité, et qui sera probablement la seule chose que les lecteurs retiendront de cette affaire. Jeanne, je voudrais aussi peut-être que vous nous expliquiez, parce que vous avez fait des recherches pour savoir d'où était partie cette polémique sur l'islam à propos d'un texte qui, on l'a vu, est très éloigné de tout ça.
Alors effectivement, on a le découpage au ciseau à ongles du discours de Ratisbonne a servi à enflammer un certain nombre d'esprits musulmans. On ne sait pas d'où c'est parti. Jacques Trémollet de Villers, à ce même micro, a pensé que ça venait peut-être du Vatican, mais ça, on n'en a pas du tout la preuve. Ce que l'on sait, c'est que la BBC, entre autres, et le New York Times ont été les premiers, au bout de 36 heures après le discours, à lancer des informations non vérifiées, semble-t-il, sur des attaques qui auraient eu lieu contre des lieux chrétiens au Pakistan. Et ensuite, les choses se sont enflammées. Donc c'est une affaire assez curieuse dont on aura peut-être un jour le fin mot et sur laquelle des cardinaux romains se sont publiquement interrogés, parce que c'est assez curieux.
Oui. Je pense qu'il faut revenir là sur même ce qu'est la structuration actuelle des médias, parce que ce qui est très intéressant, c'est que effectivement Benoît XVI a fait un discours éminemment riche, éminemment intellectuel, savant, devant un parterre d'universitaires, dans une grande tradition universitaire. Or, la plupart des hommes qui peuplent aujourd'hui les médias sont des gens qui n'ont pas de formation universitaire et pas de formation intellectuelle tout court. Ce qui fait que, d'abord, ils ont un mal fou à entrer dans ce type de considération par manque de culture et manque d'instrumentation technique. Ils n'ont tout simplement pas les instruments intellectuels et conceptuels qui leur permettent de comprendre les nuances et les arguments qui sont vraiment développés. Et deuxièmement, ils sont pris dans une logique économique qui consiste à tout de suite réduire, très vite, très simplifié, pour faire choc, en quelque sorte. Il faut faire du sensationnel. Donc, on tire un aspect, une petite phrase, qu'en général on trompe, qu'on éloigne totalement du contexte, et à partir de là, effectivement, des deux côtés, on assiste à la confrontation de deux ignorances. L'ignorance Exactement. D'un certain nombre de masses musulmanes qui sont instrumentalisées par leur pouvoir, à qui on ne cite que des bouts de phrases, et puis une ignorance crasse de journalistes qui ne répètent que quelques, font du copier-coller, répètent les mêmes phrases qu'ils ont vues chez leurs collègues, sans jamais entrer dans le discours. Et ce qui est très surprenant d'un point de vue historique, c'est que finalement, ce type d'échange, de réflexion intellectuelle qu'on pouvait avoir au Moyen-Âge très facilement, puisque les textes qui sont cités relatent une sorte d'échange intellectuel entre Manuel Paléologue, ancien empereur byzantin, donc au fait de la rationalité grecque, et puis un érudit persan censé représenter donc un intellectuel de l'islam, eh bien ces conversations qui se faisaient, j'allais dire, pacifiquement, en prenant le temps.
Et sur fond de guerre, ce qui est le plus curieux.
Paradoxalement, bien sûr, puisque effectivement, ces gens-là étaient dans des situations très complexes historiquement et géopolitiquement, mais ça n'empêchait pas qu'on pouvait prendre le temps, même que Saint François d'Assise allant parler à Saladin, de s'expliquer, d'aller au fond des querelles théologiques, sans se vouer tout de suite aux gémonies ou à l'anathème. Alors que là, on est dans des réductions telles qu'effectivement, plus personne ne prend le temps d'exposer profondément et rationnellement ce qui est en jeu. Or, c'est vraiment ça qu'a voulu aussi mettre en avant Benoît XVI à travers son discours, c'est poser aussi bien aux occidentaux qu'aux musulmans les questions de fond quant à la nature de leur foi et de ceux qui les animent, en fait.
Mais là, je dois dire tout de même que, n'utilisant que l'aspect donc qui touchait les musulmans, nos médias ont organisé un certain nombre de débats qui étaient en général d'une grande pauvreté. Alors, je n'ai pas tout écouté, bien entendu, je roule, j'ouvre ma radio, mais j'ai entendu et j'ai vu à la télévision aussi des débats avec le cher docteur Boubaker de la mosquée de Paris, qui lui, bon, est un homme distingué, affable, cultivé, mais enfin qui profitait abusivement, je dois dire, de l'ignorance des auditeurs ou des téléspectateurs. Parce qu'il a osé affirmer un certain nombre de choses, ce qui a entraîné ma réaction, puisque je lui ai envoyé 10 questions, et je demande qu'on diffuse partout, les 10 questions au docteur Boubaker. Elles portent sur la façon dont on traite les non-musulmans dans les pays d'islam, elles portent sur la réciprocité, donc puisque débat il y avait sur cela. Débat d'ailleurs affligeant du docteur Boubaker avec le monsieur Sentier, l'évêque de Vendée, on se demandait quel était le plus musulman des deux. Et j'en viens bien entendu aussi, et donc à ce que disait tout à l'heure Cécile Montmirail, elle parle de cette jeune très émouvante, j'ai rencontré, d'origine algérienne, parfaitement française aujourd'hui, qui s'exprime magnifiquement, je pense qu'un jour on l'aura à Radio Courtoisie, qui s'est convertie, elle s'est convertie toute seule, elle aime la France, elle aime sa foi catholique aujourd'hui.
Elle aime Jésus.
Elle aime Jésus, mais tout le drame, c'est qu'elle est allée trouver des prêtres de Paris. Je mesure mes propos ici, donc je ne préfère pas utiliser des qualificatifs trop durs, mais que l'ont-ils dit, hein, deux d'entre eux au moins l'ont dit, d'aller s'ouvrir donc de sa conversion à Jésus avec son imam.
Son imam ou ses parents Et pour elle, cela signifie la mort.
Oui, donc c'est dire aujourd'hui la crise qu'il y a dans l'Église catholique, et cela explique que des évêques aient été aussi peu capables de défendre Benoît XVI. Alors je pense qu'il y a chez eux, chez Sentier, c'était évident, un mélange d'ignorance et de lâcheté. J'ai écouté aussi, je dois le dire, avec un peu de commisération, de tristesse, cardinal Barbarin, qui n'est point sot, mais qui n'était pas à la hauteur du débat, et qui me paraissait donc, comme on dit un peu trivialement, emberlificoté.
Évidemment, Victoria a des questions, peut-être qu'elle voudrait poser aux auditeurs.
On vous demande si le pape a parlé de saint Thomas d'Aquin à Ratisbonne.
Il ne cite pas explicitement saint Thomas d'Aquin, il y renvoie effectivement. De toute façon, bien évidemment, soyons tout à fait clairs, ce discours, même s'il renouvelle profondément et la manière de présenter les choses, ne fait que réactualiser ce qu'est la pensée constante de l'Église depuis les origines. Hein. La première manifestation de cela, c'est bien évidemment la lettre de Paul aux Corinthiens qui dit qu'ils sont inexcusables ceux qui n'ont pas reconnu la splendeur du Créateur, car il est présent à travers les lumières naturelles de sa création. Donc il y a une affirmation fondamentale de la capacité de la raison à remonter à l'idée même non seulement d'un Dieu unique, mais d'un Dieu qui soit distinct de l'univers et qui en soit le Créateur, à la lumière naturelle de la raison. Et tout cela est bien sûr repris à travers toute la continuité, la grande constante de la tradition de l'Église. Donc évidemment, Thomas d'Aquin, Don Scott, Augustin, et puis tous ceux qui lui succèdent. Mais précisément, c'est aussi aujourd'hui quelque chose que l'on a tendance à oublier, parce que ce qui était clair dans les esprits à l'époque de Manuel Paléologue, qui étaient des esprits qui étaient pétris de théologie, ne l'est plus clair du tout pour nous, où vaguement la théologie est une sorte de croyance ou de gloubi-boulga autour d'énoncés qui de toute façon sont invérifiables, et où chacun est dans le supermarché des religions. Donc justement, ce que critique fondamentalement Benoît XVI, c'est ce relativisme généralisé qui refuse de donner droit à la vérité et à la capacité de la raison à découvrir le sens des choses.
Oui, juste un mot pour dire que Benoît XVI n'a pas parlé de la pensée de saint Thomas d'Aquin directement, mais il a parlé de Don Scott qui avait rompu avec un prétendu intellectualisme thomiste et augustinien pour en arriver à un volontarisme qui est en fait à la base des erreurs philosophiques modernes. Donc il y renvoie quand même, pour la remettre à sa place, en tout honneur, cette philosophie thomiste. Et ce qui est frappant aussi, c'est que la première traduction qui a été donnée par la croix de cet élément-là du discours était fausse. Il y avait un énorme contresens où on attribuait à Benoît XVI l'idée que saint Thomas d'Aquin et saint Augustin auraient été des intellectualistes, alors que c'est l'inverse qu'il disait. C'était tout à fait amusant à ce moment-là.
Oui, c'est une question très, très fine et très épineuse entre le rapport entre intelligence et volonté. C'est vraiment une des très grandes querelles du XIIIe siècle, mais qui nous concerne tous. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça n'a pas été paradoxalement souligné, et c'est très amusant de voir de quelle manière d'ailleurs on a monté en épingle un passage touchant l'islam et pas l'autre. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'articulation théologique christianisme-islam, c'est ce passage où Benoît XVI, citant Théodore Coury, donc spécialiste des questions de l'islam, dit « Selon l'enseignement de l'islam, Dieu est absolument transcendant. Il ne peut être lié par aucune de nos catégories, pas même celle de la rationalité. » Ici, Coury, donc il ne s'agit pas de Benoît XVI qui parle, mais de ce spécialiste de l'islam, cite les travaux d'un islamiste français distingué, Roger Maldès, qui fait remarquer qu'Ibn Hazm allait jusqu'à dire que Dieu n'est même pas lié par sa propre volonté et que rien ne pouvait l'obliger à nous révéler la vérité. Oui. Alors, ça, c'est véritablement quelque chose de théologiquement extrêmement intéressant et qui, bien évidemment, à un moment ou à un autre, fera nécessairement obstacle entre une position fondamentalement catholique et une position musulmane. On est vraiment dans une opposition flagrante.
Pour les auditeurs,
mais personne ne l'a souligné. Alors que là, c'est vraiment, on est au cœur du problème.
Je crois très intéressant, au cœur du problème, mais pour l'éclairer d'une manière un peu pédagogique, je cite l'exemple des versets abrogeants, des versets abrogés. Que pense un catholique de Dieu? Le catholique pense que Dieu, par exemple, ne peut pas faire que cette émission de radio n'ait pas existé. Voilà, elle a existé. Dieu lui-même ne peut plus faire qu'elle n'ait pas existé. Parce qu'il a créé, effectivement, le réel, la raison, et Dieu donc, ne peut pas faire le contraire de Dieu.
Donc Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas se suicider. Ce sont des tas de questions théologiques qui étaient traitées par les gens des médiévaux, mais qu'on a oubliées aujourd'hui.
Exactement. Mais alors, par exemple, les versets, alors là, c'est très important, les versets du Coran. On a dans le Coran des versets qui en abrogent d'autres. Or, pour les musulmans, On a un premier discours. Le Coran est incréé. Ça veut dire, en termes clairs, chers auditeurs, il est éternel. Il a été écrit bien avant que l'humanité ne soit existée, ou plutôt, il est écrit de toute éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de début au Coran. L'éternité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, il est gardé au paradis, sur des tables d'argent. Ça, c'est de la métaphore, j'entends bien, par des anges, etc. Mais alors, comment se fait-il que Dieu intervienne dans la vie de Mahomet pour abroger certaines choses? Il lui dit, ce que je te disais hier, c'est plus que je te dis aujourd'hui. Alors ça, pour un esprit chrétien, voilà d'une manière très concrète, c'est totalement impossible.
Un esprit occidental, d'ailleurs.
Un esprit, disons-nous,
hellénisé.
Occidental, oui, hellénisé.
La raison ne se limite pas à l'hellénisme, même non, si, effectivement, non, historiquement, on a reçu la raison, voilà. Entre autres, par les Grecs et les Hébreux. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui ne suivent pas la raison, hélas.
En revanche, un musulman dira, oui, c'est comme ça, tout est possible à Dieu, même cela. Donc, voilà. Mais Victoria, il y a peut-être d'autres questions d'auditeurs.
Ça revient un petit peu en arrière. Les expérimentations dont vous parlez existent aussi en France. Dans le milieu informatique, il y a des PC qui fonctionnent avec des cellules de sangsu.
Oui, mais là, il y a une différence fondamentale d'un point de vue aussi bien scientifique qu'éthique. C'est qu'en l'occurrence, d'un côté, on touche à des cellules humaines, donc qui attentent directement à la vie humaine et donc à la dignité de l'homme. De l'autre, on touche à des cellules animales. Alors effectivement, on peut considérer que c'est une exploitation indue de certains corps animaux, mais ça n'est pas sur le même plan.
Oui, je voudrais ajouter une phrase qu'a prononcée Benoît XVI le 16 septembre dernier lors d'un colloque justement sur les cellules souches, sur les recherches scientifiques. Il disait « On ne peut penser qu'une société puisse combattre efficacement le crime quand elle le légalise elle-même dans le cadre de la vie naissante. » Ce qui est quand même très important pour nous, je pense.
Effectivement, et on a eu dans Le Monde du 27 septembre un grand article sur la controverse autour de l'extension du diagnostic préimplantatoire, dans lequel on apprenait que avec ces diagnostics préimplantatoires, non seulement, et ça on le savait déjà, on éliminait les fœtus qui avaient des maladies génétiques, mais que désormais on éliminait aussi les fœtus qui avaient des prédispositions à des cancers.
C'est susceptible de donner dans 20 ans, 30 ans, 50 ans un cancer.
Ils n'ont pas du tout développé. Et qu'ils ne l'ont pas développé. Ça veut dire qu'un jour, peut-être qu'on éliminera aussi quelqu'un qui est susceptible d'avoir la grippe.
Pourquoi ou quelqu'un qui est susceptible tout court.
c'est une autre illustration, effectivement, de cette folie, de cette déraison moderne, en quelque sorte, à laquelle, face à laquelle nous met en garde Benoît XVI, et qui est quelque part une des victoires les plus posthumes des totalitarismes du XXe siècle, parce que nous sommes en plein eugénisme.
Exactement. Et ce qui est incroyable dans la façon dont les journalistes traitent ce genre d'informations, c'est que cela ne les offusque pas du tout. Mais en revanche, ils s'étonnent du fait que, comme ce sont des choses qui coûtent très cher, là j'ai sous les yeux un chiffre, cette prestation aux États-Unis est facturée plus de 25 000 dollars, la seule chose qui les émeuve, c'est que les pauvres ne peuvent pas y avoir accès. C'est dingue. C'est ça qui les scandalise, alors que en fait on est en train d'organiser l'assassinat et le génocide des enfants.
C'est une grande question qui se pose aussi, la question de l'argent pour la fécondation in vitro en Angleterre. On s'émeut beaucoup parce que les femmes seules qui n'ont pas trouvé l'homme de leur vie, elles sont de plus en plus nombreuses, elles et les lesbiennes, à demander des fertilisations in vitro. Ça coûte très cher. Il faut d'abord mettre une somme importante pour obtenir des ovules. Ensuite, il faut donner je ne sais plus combien, 400 euros par an pour les congeler. Alors ça pose un énorme problème. Aujourd'hui, il y a près de 40 000 couples qui recourent à ces techniques en Angleterre, et on est en train de changer la loi pour que des femmes seules, pour que des femmes lesbiennes qui déjà y ont recours en tournant la loi, puissent le faire tout à fait légalement. Je vous dis qu'on marche sur la tête.
Et là, on retrouve ce même problème de la perversion en quelque sorte médiatique ou journalistique, qui est qu'évidemment, au lieu d'aller au cœur du problème qui est là, la question de l'instrumentalisation de la vie et effectivement de la programmation légale de la mort d'individus, on se focalise sur des effets de sensationnalisme sur la question de savoir si les lesbiennes pourront avoir des enfants comme les non-lesbiennes, si les pauvres pourront bénéficier de la fécondation in vitro comme les riches. Donc des questions totalement secondaires mais purement clinquantes qui font vendre du papier mais qui nous font passer complètement à côté effectivement du problème non seulement éthique mais scientifique de fond. Parce que le problème scientifique que l'on ne mentionne pas aussi, c'est comme vous le dites, il y a beaucoup de questions d'argent très, et financières très importantes derrière, et que cela va si loin que cela dénature même le fonctionnement de la science, puisqu'on a aujourd'hui, on a eu le cas avec ce savant coréen Wang au début de l'année 2005, qui aujourd'hui faussent leurs publications, sont prêts à tous les coups pour obtenir des crédits, au détriment même de leurs pratiques scientifiques.
Et en l'occurrence, le scandale, c'était qu'ils obtiennent des crédits et personne ne s'étonnait de ce qu'il ait fait du clonage humain. C'était assez curieux.
Il y a d'autres questions. Je voudrais que l'on accélère un peu parce qu'il y a un flot de questions et il faut au moins en traiter quelques-unes, Victoria.
La même auditrice nous assure qu'en France, les expérimentations sont faites sur des porcs car au niveau génétique, il est le plus proche de l'homme.
Mais non.
Alors, pouvez-vous nous parler du chantage de l'État turc? Si vous reconnaissez le génocide arménien, il faudra reconnaître aussi votre génocide en Algérie.
Oui, je veux bien parler de cela. J'en ai déjà traité ici, parce que là aussi, on nage en plein délire. J'ai été personnellement un militant très actif de la reconnaissance du génocide arménien. J'en ai même parlé à cette radio à l'occasion. C'est un génocide d'une horreur épouvantable en quantité, je dois dire, dans la sophistication des abominations. Je suis intervenu au Parlement européen jadis pour parler de ce génocide parce qu'à cette époque-là, on ne voulait pas, la classe politique en général, ne voulait pas que le terme de génocide soit appliqué au génocide arménien. Je me souviens fort bien de Simone Veil qui m'avait dit « Monsieur, il n'y a qu'un génocide ». À quoi j'ai répondu « Eh bien, non. Hélas, il n'y a pas qu'un génocide. Il y a eu un génocide affreux auquel vous faites allusion, donc une extermination, donc celle subie par les Juifs. Mais il y a eu les Cambodgiens qui ont subi un génocide effroyable aussi, en quantité et dans l'horreur.
Un quart de la population en 4 ans.
Un quart de la population en 4 ans, et puis le génocide arménien. À la suite de quoi, en tant que président de la GRIF, et la GRIF se bat sur beaucoup de terrains, voyez-vous, j'ai été saisi un jour par un journaliste du Monde, on a quelques complices, il n'y est plus. J'ai été alerté plus exactement sur un article de l'historien Bernard Lévis qui niait le génocide arménien, et la GRIF a intenté un procès. Comme nous le faisons toujours, nous faisons du judo, nous prenons l'adversaire, nous le mettons dans sa logique, et j'ai poursuivi Bernard Lévis pour négationnisme. Bien, Jacques Trémollet de Villers a brillamment traité cette affaire-là, mais nous avons été déboutés sous le prétexte que je n'étais pas, ce qui est tout à fait Elsa, fils ou petit-fils de déporté, qu'il n'y avait rien d'arménien à moi, mais enfin je suis tout de même un chrétien, et je me sens aussi solidaire des persécutions subies par les chrétiens dans n'importe quel pays que par exemple un juif d'Afrique du Nord avec les persécutions subies par les juifs ashkénazes en Europe, c'est exactement la même chose. Donc j'ai invoqué cela. Mais quand même, nous avons été relayés par des associations arméniennes. Nous avions donné le coup d'envoi. Et le génocide arménien a été reconnu ce que nous voulions. Mais maintenant, nous tombons dans tout à fait autre chose. C'est-à-dire que, pour en rajouter à des fins électorales et en démagogie, on voudrait envoyer en prison, pour négationnisme, ceux qui nient le génocide arménien. Nous y revoilà. Donc, l'histoire officielle, l'histoire imposée, l'histoire sous la schlag, ce que même Madame Badinter et enfin des grands savants, des historiens ont dénoncé, cela n'est pas possible. Moi, j'ai une opinion que je dis ici de la manière la plus tranquille et je suis prêt à affronter n'importe qui sur le sujet. Je suis un affirmationniste du génocide arménien, mais je suis pour la liberté de propos des négationnistes. Bah, on s'affrontera autour du micro. Bah, si nous sommes sûrs de nous, et c'est la même chose pour les négationnistes du génocide des Juifs. Enfin, il est tellement facile de les contredire. Moi, je suis pour la liberté de débat. Je considère qu'il y avait en France une loi très sage sur la liberté de la presse. La loi de 1880 que défendait avec beaucoup de talent notre regretté Georges-Paul Wadner, cette loi était encadrée effectivement par les abus que constituent l'injure et la diffamation. Mais aujourd'hui, dans le vouloir prétendre mettre en prison des gens qui nieraient le génocide arménien, je trouve ça complètement aberrant. Je suis pour qu'on réfute et pas pour qu'on persécute. Quant aux Turcs, ils n'hésitent pas. Ils ont un sacré culot, évidemment. Ce que j'observe, c'est que M. Chirac a changé de stratégie par rapport à la question. J'ai l'impression que M. Chirac est en campagne électorale ou en pré-campagne, pour lui peut-être, ou pour quelqu'un d'autre. Alors, des voix d'Arméniens à grappiller, c'est quand même bon. Alors il va faire un tour en Arménie, lui qui était tellement pro-turc il y a encore quelques mois, enfin militant de l'entrée de la Turquie, le voilà tout d'un coup qui se dit il y a bon à gratter chez les Arméniens, c'est mieux pour l'instant que l'électorat turc en France. Voilà qui nous éloigne un peu de la haute philosophie politique, chère de la haute philosophie et des mathématiques, cher Daniel Amand, mais donc nous sommes quand même là aussi dans l'islam, nous retournons à Byzance, à Constantinople, c'est cette Turquie qui ne se repent pas. Les Turcs constituent un grand peuple, c'est un peuple redoutable, et c'est un peuple qui n'est pas affecté par notre masochisme, et voilà qu'ils contre-attaquent en voulant nous imposer, mais après tout, nous avons tellement de masochisme chez nous, donc je ne sais trop la reconnaissance de je ne sais trop quel génocide algérien. Alors, il y a un génocide...
Arménien.
Il voudrait que la France reconnaisse un génocide en Algérie. Alors, je vais les prendre un mot, en effet, il y a eu un génocide en Algérie, et j'aimerais bien que ce génocide soit reconnu, c'est le génocide des Harkis, accompagné, d'ailleurs, du génocide, ça n'a pas réussi totalement, puisqu'il y a eu expulsion des Françaises et Français, donc pieds noirs, mais après tout, prenons la Turquie au mot, un génocide a été commis en Algérie, effectivement, pas par la France, c'est le génocide qui a été commis par le FLN, avec la complicité du gouvernement français, qui interdisait à l'armée française de bouger pendant que l'on égorgeait Oran, que l'on déportait 3000 femmes françaises, et que 150 harkis étaient ébouillantés, coupés en morceaux, les supplices, et les sévices étaient exactement ceux que l'on avait connus, commis par les Turcs dans le génocide arménien.
Si l'on peut rebondir sur ce que vous venez de dire, cher Bernard Anthony, je crois qu'effectivement la position que vous défendez est éminemment saine et louable, mais précisément elle est possible parce que vous croyez en la raison et en cette capacité d'arriver à la vérité en échangeant des arguments. Ce qui est de plus en plus fréquent aujourd'hui, d'ailleurs aussi bien en science qu'effectivement en histoire, et c'est ce dont se plaignent d'ailleurs eux-mêmes les historiens et parfois même eux, certains scientifiques, c'est qu'aujourd'hui les arguments rationnels ne sont plus nécessairement audible ou mis en avant, on utilise des arguments d'autorité, voire des arguments de contrainte, c'est-à-dire la force. Et c'est exactement d'une certaine manière ce sur quoi, en quelque sorte, insistait Benoît XVI dans son discours. Eh bien, de même qu'on ne peut pas convaincre et contraindre à entrer dans la foi par la force, de même, on ne peut pas contraindre un esprit à adhérer à la vérité par la force ou par la contrainte judiciaire.
Et voilà pourquoi la loi Rocard-Guessot est une loi de régression intellectuelle, de régression de la pensée, c'est une loi totalitaire, et comme tout totalitarisme, c'est une loi contraire à la raison. Mais Victoria a d'autres questions.
Elle a d'ailleurs été faite par un communiste.
Oui,
bien sûr.
Et un socialiste tout de même. Oui. Rocard, mais en fait tout ça. Hein, fait bon ménage.
En trafiquant les cellules, on touche ce pourquoi Adam et Ève ont été chassés du paradis, l'arbre de la connaissance. Ces chercheurs veulent être comme Dieu.
Bah, c'est bien dit, je crois qu'on ne va pas aller plus loin. Hein,
et
c'est très bien dit.
Vous dites ça, je, toutes ces recherches, c'est l'œuvre de Satan.
Là, c'est peut-être un petit peu réducteur. Il y a beaucoup plus simplement l'appât de la gloire, de l'argent, ou l'illusion de croire qu'on contribue effectivement à une recherche de pointe, sans s'apercevoir des conséquences très néfastes que cela peut entraîner.
Pourriez-vous nous parler de cette collégienne de Lyon qui a été lapidée pour n'avoir pas respecté le jeûne du Ramadan, et même, je crois, en mangeant un sandwich?
J'en ai traité, je pense, dans mon blog.
Il y aura un article dans Présent demain également.
Voilà. Donc, là, on est... un fait, un nouveau fait, hein, dans au fond la preuve de ce que, au moins dans comment dirais-je, la façon dont il est perçu par beaucoup, l'islam aujourd'hui offre hélas le spectacle de trop de violence. Bon, je ne dis pas que ceux qui lapident cette fille sont des docteurs de l'islam, manifestement ce n'est pas le cas, c'est bien évident, hein, nous ne saurions confondre les choses, nous savons effectivement raison garder, mais cela est intolérable.
Et il reste que dans les pays musulmans, mais vraiment islamiques, lorsque vous ne respectez pas le ramadan, vous êtes sanctionné, voilà, dans la rue et durement.
Cher docteur Boubakeur, ou vous qui pouvez parler au docteur Boubakeur, que fait le docteur Boubakeur pour dénoncer de telles choses, non seulement en France, puisqu'il est le président du Conseil français du culte musulman, mais dans tous les pays musulmans, où aujourd'hui, donc, ce ne sont pas des pays dits islamistes, ça se passe en Égypte, avec un resserrement, un développement de la charia, ça se passe au Soudan, au Pakistan, etc. Nous en avons souvent traité, nous aurons hélas l'occasion de revenir souvent, je le crains, sur de telles actions.
Et ça se passe hélas aussi au Maroc, c'est-à-dire à nos portes, où on note une poussée inquiétante des islamistes marocains, et où les chrétiens sont de moins en moins bien traités, et cela est nouveau.
Oui, mais là, nous sommes dans le phénomène que nous avons souvent analysé. Y a-t-il d'autres questions, Victoria, puisque nous allons...
Oui.
Il y a encore de la réplique que nous avons prévue quand même. Alors, allons vite sur les questions.
À ma connaissance, l'Église catholique a renoncé en France à convertir les musulmans.
Non, l'Église catholique ne renonce jamais, nulle part, à convertir. Mais il y a des hommes d'Église catholique qui peuvent... Alors, il y a plusieurs nuances. Certains dont sont timorés, d'autres, effectivement, on a pu lire dans la Croix, ce qui ne me paraît pas du tout catholique, je le dis tout de suite, que l'islam était, ma foi, une belle voie d'accès à Dieu. Alors, ça, lire ça dans un journal catholique, c'est effectivement très, très attristant, mais l'Église catholique ne renonce pas à convertir, et je puis vous dire qu'il y a aujourd'hui, par exemple, hier j'étais avec un prêtre, hier au soir chez moi, qui est le premier fils de Harki ordonné en France, hein, dont il a été converti, FIFA dont nous parlions tout à l'heure, elle convertit. Alors hélas, il y a effectivement il y a une crise dans l'Église catholique, nous le savons bien, mais nous voyons bien qu'il y a aussi au sommet donc une grande voix qui rappelle la grande doctrine de l'Église.
Une petite précision juste théologique, ce n'est pas l'Église qui convertit, ou a fortiori pas, oui, les hommes, c'est Dieu qui convertit, puisque c'est Dieu qui se propose à nous, et effectivement c'est l'Église qui annonce et proclame la vérité de l'Évangile. Donc évidemment, il y a là une nuance, et c'est l'homme qui librement adhère ou refuse cette vérité. Maintenant, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, je pense qu'effectivement l'Église continue même en France à annoncer l'Évangile à différents niveaux et de différentes manière. Par contre, il y a un problème en quelque sorte assez fin et délicat qui s'exprime dans la manière dont on annonce cet évangile. Et c'est vrai que depuis au moins une trentaine d'années, si ce n'est depuis 50 ou 100 ans, disons depuis la crise moderniste en France, il y a sans doute eu une tentation de simplement proposer l'évangile et non plus l'annoncer, le proclamer. C'est-à-dire, oui, une position très en retrait qui n'ose plus, n'a plus l'ambition,
on peut dire,
d'annoncer pleinement et dans toute sa force la lumière de l'Évangile.
On peut dire sur toutes ces choses qu'il y a une gradation. Ce que vous dites, Daniel, est vrai. Bon, c'est Dieu qui convertit. Mais enfin, juste là, aller et enseigner toutes les nations. L'Église est instrument du salut. Les prêtres, les évêques étaient là pour annoncer et pour, dans le congrès, faire des conversions, comme on disait jadis. Lorsque aujourd'hui...
C'est l'œuvre missionnaire de l'Église, effectivement.
Voilà, donc l'Église continue cette œuvre missionnaire, mais dans l'Église, il y a, comme dans toute institution humaine, puisqu'elle est institution divine, mais elle est aussi formée d'hommes, elle est société humaine, il y a des relâchements, nous les avons trop connus, nous les combattons, et j'évoquais tout à l'heure cette position incroyable de prêtre disant à cette jeune fille, donc... d'aller parler de sa conversion au catholicisme des imams, Cécile Montmirail a eu raison de dire que c'était l'envoyer à la mort, hein, dans certains cas. Nous savons ce que vaut la conversion. Donc, je rassure cet auditeur, je suis aussi, nous sommes en contact à Chrétienté Solidarité avec des dizaines et des dizaines de prêtres qui annoncent l'évangile. Et il y a, ça se sait très peu, mais il y a aussi des milliers de musulmans qui rencontrent le Christ en France aujourd'hui.
Il me reste quatre messages qui sont plus des commentaires que des... Donc, je voulais lire rapidement.
Voilà.
Si on parle de génocide, il serait bon de rappeler le génocide vendéen. Et
mais oui, bien sûr. Mais bien entendu.
Et puis, ce ne sont pas les communistes... Ce sont les communistes qui poussent à la reconnaissance du génocide en Algérie pour obtenir des votes en leur faveur. Quant à leurs pensions, elles ont été largement payées par les annulations successives de leurs dettes. Quant à la Serbie, qui a donné 750 000 hommes pour nous défendre, elle attend toujours la reconnaissance du génocide qu'ils ont subi. Et puis sur l'autre sujet des manipulations, je vous signale que ces manipulations génétiques monstrueuses sont dues dans la droite ligne de la philosophie des Lumières. Ainsi, Diderot, à la fin de son livre intitulé « Le rêve » de d'Alembert, envisageait et souhaite la fabrication d'hommes animaux qui seraient les domestiques des hommes et puis qui pourraient leur servir par exemple de cocher. Bon, alors ne vous étonnez pas si tous les francs-maçons et les gauchistes reviennent sur ce sujet. Bon, et puis un auditeur qui dit si on veut guérir les cancers, on va faire une exploration détaillée du génome et forcément il y aura des déviations telles que l'eugénisme.
Bon, vaste sujet, il y aurait beaucoup à dire sur tous ces
plusieurs émissions
marques-là.
On peut dire tout de même qu'effectivement, si le 20e siècle a été le siècle de Prométhée avec le feu nucléaire, le 21e siècle est vraiment le siècle de Faust. C'est-à-dire qu'on joue avec la vie de manière absolument insensée.
Et je crois que tous les auditeurs qui ont dit cela l'ont excellemment dit à leur manière, à leur façon. Et je crois que c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une simple action politique. Quelquefois, on nous demande, j'en profite, là c'est le président de Saint-Charlie qui parle, on dit mais vous délaissez le combat politique. Sûrement pas. Nous le menons sans cesse. Mais aujourd'hui, il n'y a pas seulement un programme électoral qui peut avoir son importance. Si nous n'éclairons pas le combat pour la cité par les fortes raisons de la raison et par la culture de vie, je crois que nous n'aboutirons à rien. Et vous voyez, je sens cela plus jamais dans une émission comme celle que nous menons en liaison avec les auditeurs. Au fond, ça n'est pas tellement une droite et une gauche qui s'affrontent, mais c'est la culture de vie et c'est la culture de mort. C'est le respect des lois de l'être et c'est tout au contraire donc la déraison. Donc, et Daniel vient de le dire excellemment, effectivement, le docteur Faust... voilà. Mais il y a d'autres questions que nous devons traiter. Elle retourne.
Oui, Cécile Montmirail. Je voudrais traiter de la question de la peine de mort. En effet, le 10 octobre 81, la peine de mort avait été abolie en France et à l'occasion du 25e anniversaire de cette abolition, on a vu beaucoup de papiers sur la peine de mort, dont un qui date du mercredi 11 octobre, donc très récent, qui est paru dans Le Monde et qui fait un espèce de panorama sur les abolitionnistes, comme ils disent, et donc l'état des pays qui ont encore dans leur législation la peine de mort. Et là, je crois qu'il faut répliquer à la façon dont l'information, une fois de plus, est présentée au lecteur. En effet, on nous présente la question de la peine de mort en opposition entre les bons, ceux qui ont aboli la peine de mort, et puis les mauvais, ceux qui l'ont encore. Et on met tous les pays qui ont encore la peine de mort sur le même plan. Alors il y a là les États-Unis, la Chine, l'Iran, le Vietnam, etc., etc. Et ce que je trouve proprement scandaleux, c'est qu'on ne fait pas de différence entre les systèmes de justice de ces différents pays, donc on met sur le même plan des démocraties où quand même les personnes ont le loisir d'avoir des avocats, d'être défendues, et puis des pays totalitaires comme la Chine. Et à ce propos, dans cet article, on apprend quand même des petites choses dans des petites lignes qui nous permettent de démontrer ou de souligner ou de prouver ce qu'on a dit juste avant concernant l'Arabie Saoudite, qui est donc un pays musulman, et dans lequel on apprend comme ça par hasard que il y a eu 86 prisonniers qui ont été exécutés en Arabie Saoudite, et que voici donc les motifs de condamnation à mort. Il y a bien sûr les crimes violents, ce qui nous semble normal, le trafic de drogue, mais aussi, en tout petit, le changement de religion ou la sodomie. Ça veut dire que en Arabie Saoudite, où est appliquée dans toute sa rigueur la charia islamique, quand on change de religion, eh bien, on
est
exécuté. Et alors qu'on ose mettre ça sur le même plan que quelqu'un qui a commis un crime de sang, c'est un peu exagéré, je crois.
Oui, non, je crois que je ne suis pas un fanatique du journal Le Monde, mais c'est un tableau. Et dont je pense que, tout simplement, il présente d'une manière très synthétique ce qu'il en est de l'application de la peine de mort. Mais effectivement, Cécile Montmirail a raison, les motivations sont très diverses, très différentes, et cette simple petite ligne sur l'Arabie Saoudite est révélatrice d'une pratique beaucoup plus large. Parce qu'il y a la peine de mort officielle pour raison de changement de conversion, mais il y a celle qui est pratiquée officieusement. Parce qu'on sait fort bien que quand on rentre dans un certain pays arabe en prison pour 20 ans, on n'en ressort jamais. Parce que 20 ans dans une prison du Soudan, il faut être un surhomme pour y résister. Alors, sur la question de la peine de mort, puisqu'elle est traitée, je vais en dire un mot parce qu'elle va être dans nos débats politiques à venir. Comme vous le savez, nous défendons au centre Charlier, à Pays Libre, à Reconquête, un certain nombre d'exigences qui sont celles que j'ai toujours défendues dans mon militantisme politique en tant que dirigeante du Front National. Je ne les exposerai pas toutes ici, puisque nous sommes en train d'ailleurs de les retravailler, peut-être pour mieux les formuler encore. Et parmi ces exigences, nous avons, je les rappelle tout de même, celle du remplacement de la loi Veil, par une loi de culture de vie, l'abolition dont j'y faisais allusion tout à l'heure de la loi liberticide Roquard-Guesso, et puis le rétablissement de la peine de mort. J'ai entendu dire, on m'a rapporté d'une manière très certaine, que, pourquoi pas le dire, j'aime le débat. On le sait, quand il y a débat, il y a débat, que dans le mouvement de Philippe de Villiers, on m'avait, non, peut-être pas attaqué, mais enfin on avait dit l'incohérence de Bernard Anthony qui présente l'exigence de la peine de mort et qui en même temps est contre l'avortement. Je dois dire que la cohérence est de mon côté, parce que nous défendons le respect de la vie innocente. Et le respect de la vie innocente, ça consiste à appliquer la peine de mort aux criminels, les pires, à ceux qui ne respectent pas cette vie innocente. Alors, je rappelle notre doctrine sur le sujet, c'est d'ailleurs la doctrine de l'Église catholique, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, que lorsque des hommes se dépossèdent de leur droit à la vie, selon l'expression du pape Pie XII, méritent la condamnation à mort. Le père Brudeberger, qui est un très grand esprit, nous avions un très grand écrivain, très grand penseur, nous n'avions pas forcément ses idées politiques, mais défendait la peine de mort, et pourtant il l'avait vu de très près. Alors nous sommes pour le rétablissement de la peine de mort comme fait de l'édifice judiciaire, pour qu'au moins ça existe pour les choses les plus atroces. Et nous avons évoqué un cas que je ne peux pas évoquer parce que je n'en ai pas je n'ai pas un contrôle de sensibilité assez fort, qui est celui des petites filles d'Alsace qui ont été atrocement traitées. Je ne voudrais pas m'étendre ici parce que je tournais le dossier. Et bien dans ces cas-là, oui, il y a le seul châtiment proportionné à l'abomination que ces petits enfants ont connue, c'est la peine de mort. Et ceci, c'est vraiment sans contradiction aucune, Monsieur de Villiers, avec notre lutte une loi de vie et contre l'avortement.
Sans compter que Philippe de Villiers lui-même avait promu la peine de mort, il y a encore quelques années, il n'est pas à une contradiction près, j'ai l'impression.
Et que souvent, la non-application de la peine de mort pour les criminels se traduit en pratique par la peine de mort pour les innocents. Et c'est le cas.
C'est le cas particulier de Pierre Baudin. Nous allons avoir le procès, hélas, parce qu'on va apprendre des choses terrifiantes dans quelques jours ou quelques semaines. Pierre Baudin, en l'occurrence, qui était un multi-récidiviste, est sorti. Et je peux dire ici que j'ai rencontré un homme en larmes qui avait fait son travail. À lui, on ne peut pas l'en vouloir. C'est son avocat à Strasbourg qui m'a dit « j'ai contribué à le faire ressortir ». Et il me dit « désormais, mes nuits sont hantées par le fait que s'il n'était pas sorti, la petite Jeanne-Marie serait peut-être toujours vivante. Serait certainement toujours vivante ».
Mais bien sûr.
Sans entrer dans le fond du débat sur la question de l'opportunité ou non de ce type de sanction ou d'un rétablissement de la peine de mort, on peut considérer qu'à un certain niveau de développement ou de pacification des États, d'autres solutions sont possibles. Ce qui est très intéressant d'un point de vue, si on prend un peu l'aspect culturel ou philosophique de cette question, c'est qu'on se rend compte que de plus en plus, en tout cas dans une certaine strate des élites européennes, il existe une sorte d'irénisme généralisé, de refus de distinction du bien et du mal, et le fait que nous soyons par bonheur en paix depuis maintenant quelques années fait qu'il y a une incapacité à voir ce que peut être la réalité du crime, de la violence, dans toute sa perversion. Et il y a une sorte de rousseauisme généralisé qui traverse l'esprit de nos dirigeants, qui effectivement n'est pas partagé par d'autres nations qui elles sont très au fait de leurs intérêts et des instruments qu'elles doivent utiliser lorsqu'elles veulent faire la guerre ou obtenir ou satisfaire leurs intérêts, y compris en termes de prédation économique ou militaire. Et nous sommes dans une sorte de logique où on considère que c'est un peu Disneyland, que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde ira au paradis. Effectivement, il y a un effacement à la fois du paradis et de l'enfer, du bien et du mal, de la vie et de la mort, ce qui fait qu'on ne sait plus distinguer entre l'innocent et le criminel.
Jeanne Smith,
j'ajouterais, nous sommes ici l'émission de la réplique, ce qui avance la cause des abolitionnistes, c'est quand même la mauvaise presse qu'il est si facile de donner à la peine de mort, avec des exemples comme celui de la Chine, où à l'évidence, elle est appliquée de façon totalement irrationnelle, enfin peut-être arbitraire. très arbitraire, mais très rationnelle pour ceux qui exploitent cette chose. Et puis la peine de mort appliquée dans les pays communistes, on sait avec quelle débauche de tuerie ça a pu se faire au siècle dernier. Et puis les États-Unis, où vous avez ces exemples terribles de criminels, ou non, on ne le sait pas toujours, mais même des criminels, qui passent 20 ans avant d'être exécutés. Ce qui est une façon parfaitement inhumaine d'appliquer cette peine de mort. Donc tout ça, c'est les médias qui mettent en avant ces exemples-là, sans jamais dire ce que devrait être la peine de mort et ce que devrait être un bon système de justice impartial et gratuit.
Aristote faisait valoir que dans toute cité qui fonctionne, il y avait deux dimensions fondamentales qui étaient l'amitié et la justice. Je trouve que dans nos sociétés européennes en particulier, il n'y a plus beaucoup d'amitié entre les êtres humains et il n'y a surtout pas beaucoup de justice.
Bernard, je oui. voudrais qu'on on va essayer de se détendre un tout petit peu.
Ah, mais on n'est pas tendu, Cécile, le voyez, on est tous très bien là, autour de la table.
J'aimerais que vous nous parliez un peu de cigarettes, de tabac.
Quoi? Moi, je voulais vous parler d'autre chose, mais je vais y venir. Vous voulez que je vous parle de cigarettes, de tabac? Alors, moi-même, je ne suis pas fumeur, je ne fume pas du tout, sauf les bons cigares, mais c'est très rare, parce qu'ils
Quelle
sont très chers. Donc, avec un cigare par mois, quand j'écris un article, ça me suffit. Mais, je sais pourquoi vous me parlez de ça, parce que vous faites allusion à une conversation que nous avons eue, et vous disiez l'autre jour, ras-le-bol, partout des interdictions. Et alors là, je suis comme vous. Vous voyez-vous, quelquefois, c'est une boutade, et je sais que je peux, avec les auditeurs intelligents de Radio Courtoisie, me faire comprendre. Avec la moyenne des auditeurs et téléspectateurs, je ne suis pas sûr. Mais avec ceux de Radio Courtoisie, oui. Je milite toujours pour la sécurité. La preuve en est, je défendais la peine de mort pour qu'on me sommet de l'édifice judiciaire pour réprimer donc les crimes les plus abominables et parce qu'il faut que donc les méchants tremblent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la sécurité là où elle doit être, et on l'introduit partout. Et là, il y a donc aujourd'hui une dérive sécuritaire qui rime avec totalitaire. Quelquefois, j'ai envie de dire « vive l'insécurité », qu'on comprenne bien. Non, je défends la sécurité, mais cet État qui veut nous mettre en sécurité partout, toujours, Big Brother, alors qu'il ne nous protège pas des agressions, des viols, des hold-up, mais donc il faut plus fumer, voilà, bon, alors je sais bien, le tabac tue, mais enfin, on pourrait quand même l'État s'occupe peut-être un peu trop dans ses ordonnances à vis des citoyens. Et puis, c'est les contrôles de vitesse. Ça devient effrayant aussi. On ne peut plus rouler. Enfin, on doit passer de 70 à 30, sinon on se fait piquer, etc. Enfin, ça devient épouvantable. D'ailleurs, moi, j'ai conduit pendant des millions de kilomètres. Je touche du bois sans pépin. Mais maintenant, je ne sais plus combien de malheureux petits points il me reste pour mon permis de conduire. Parce que il faut être toujours l'œil fixé sur les panneaux et c'est très 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 dangereux. Et puis ensuite on ferme les cuisines.
Et sur son compteur aussi.
Et on ferme les cuisines parce qu'elles sont pas aux normes européennes. Alors moi je connais des charcutiers au Pays Basque qui m'écoutent en ce moment, mes vieux copains de Saint-Jean-Pied-de-Port, etc. On les embête parce qu'ils font du pâté qui est délicieux au piment d'Espelette, mais parce que leurs cuisines ne sont pas conformes pour des raisons de sécurité. Et puis des groupes de scouts, on les interdit de fonctionner parce que les cabanes qu'ils font ne sont pas construites avec l'enseignement de Le Corbusier. Et puis les écoles libres, on les oblige à avoir un escalier. Enfin, c'est le gag. Quand on voit ce que construit la République aujourd'hui, les cités qui nous ont faites, là où l'on risque effectivement sa peau, bien réellement, hein, donc ils vont être tatillons ensuite. Donc, interdire aux associations de fonctionner, parce que Big Brother est là, sécuritaire, sécuritaire. Il faut que les Français comprennent que en fait, c'est un moyen là de les conditionner. Vous voyez les huîtres d'Arcachon, enfin sans même savoir alerte aux huîtres. De même, ça sera alerte aux bigorneaux, alerte aux moules, la vache folle, la tremblante du mouton. Donc, l'asepsie généralisée. Donc, cela est intolérable. Je lance là réellement un grand cri. Et si je suis à nouveau, pourquoi pas, un jour candidat des élections, je me battrai sur cela. Parce que quelle est notre doctrine à nous? C'est que l'État doit être fort, protéger les frontières, protéger l'économie. L'État doit assurer effectivement les justes châtiments, mais qu'il nous foute la paix ensuite. Nous voulons plus d'État, mais nous voulons moins d'administration, moins de tatillons, moins de bureaucratie policière. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose que des descripteurs de la vie sociale devraient mettre bien plus en avant, cette inquiétante dérive, mais je sais que les minutes tournent, on a encore des choses à dire, donc cette inquiétante dérive sécuritaire qui est le contraire de la véritable, du véritable respect et défense de la sécurité.
Et qui aboutit concrètement à la déresponsabilisation des gens.
Je crois que Jade, sinon on va l'oublier, souhaitait dire des petites annonces, des petites informations, il ne faut pas oublier.
Alors, la première information, c'est quand même très important, c'est l'ouverture de votre blog, Bernard Anthony. Nous n'en avons pas parlé.
Ben, moi, j'ai oublié.
Alors, moi, je vous le dis, je vous fais cette fleur. Bernard Anthony a donc ouvert son blog qu'il alimente quotidiennement. Je vais le voir régulièrement. Il y a des petites blagues, mais il y a aussi des choses extrêmement sérieuses. Et donc, c'est une façon de garder le contact qui est intéressante. Vous vous y connectez par bernard-anthony.blogspot.com. Alors blogspot, c'est blogspot.com, ou bien vous allez sur le site Blogueur et vous cherchez Bernard Anthony. Une autre petite annonce, si vous me le permettez.
Oui, Jeanne.
Je voudrais simplement vous conseiller un roman que je viens de lire dans la tradition du Da Vinci Code, mais à l'inverse, si je puis dire, puisque le Da Vinci Code a donné beaucoup de rejetons presque aussi mauvais que lui-même, mais il y en a un qui prend le contre-pied, ça s'appelle La Trace. C'est un très joli roman policier, un thriller extrêmement bien ficelé, avec comme thème central le Graal, mais une optique qui est tout à fait chrétienne, ça vaut le coup d'être lu. Vous le trouvez là sur internet, vous cherchez La Trace.
Eh bien, on va lire ce roman policier. Alors, je reviens, Cécile, Jeanne,
Daniel,
sur la journée du 22 octobre au domaine de Grand Maison. Le 22 octobre, c'est la journée de la résistance médiatique, mais ça sera la résistance culturelle. Naturellement, vous retrouverez Serge de Beketch, beaucoup d'autres encore, des écrivains, notre ami Richard Haddad rassemble ce jour-là un grand nombre d'écrivains qui viendront signer leurs ouvrages. Je ferai une déclaration politique dans l'après-midi. Je ferai une déclaration politique sur l'actualité. Je n'ai pas beaucoup épinglé M. Chirac. Tout à l'heure, j'ai parlé de sa pêche aux voix arménienne. Je dirais quand même, j'aurais pu dire un petit mot sur la façon dont il découvre, ça c'est du pur Chirac, scrogneux, le dialogue social. Enfin, à intervalles réguliers, Chirac dit, mais comment ça se fait? Il serait quand même temps qu'on fasse quelque chose. Il l'a comme ça, un culot monstre, un toupet monstre.
Donc il
est au pouvoir depuis des dizaines d'années et il dit, comment se fait-il que cela ne soit pas fait? Au passage d'ailleurs, sur le fond du problème, il y aurait à causer, mais nous y reviendrons, de la représentativité syndicale.
Juste un mot, Jeanne, parce que vous avez cité le blog de Bernard Anthony, mais je crois que vous et vous aussi, vous venez d'ouvrir un blog.
En prévision de la journée du centre à l'initiative de Bernard à Villepreux le 22 octobre, j'ai ouvert également un blog. Ça s'appelle le blog de Jeanne Smith, tout attaché, c'est au même endroit, .blogspot.com. Mais non concurrentiel avec d'autres existants.
Non, tout ça est complémentaire.
Puisqu'il s'agit de nouvelles internationales de la culture de vie.
C'est très...
Dernier coup de gueule peut-être, Bernard.
Oui, j'en ai un. Je voyage beaucoup par avion, par train, et dans le TGV, TGV Magazine, il y a toujours des articles insupportables. Avec notre argent, donc on bourre le mou des citoyens, et alors il faut faire comme moi, il faut prendre le crayon et annoter. Alors, dans un voyage entre Toulouse et Paris, j'annote au moins 15 revues de TGV, parce que par exemple, vous voyez, c'est la dernière en date, donc on dit ces braves petits gothiques, c'est un article sur aujourd'hui la mode gothique, on dit mais non, on les dit d'extrême droite, en réalité ils sont anarchistes, écologistes, intermondialistes. Voilà, rien que cela, cette idée énorme, je ne la commente pas aux auditeurs de Radio Courtoisie. Le mal, c'est donc l'extrême droite, ce qu'on entend par là. Mais le bien, non, ils sont anarchistes, ils sont gauchistes, etc. Alors c'est insupportable, et je demande aux auditeurs de Radio Courtoisie, voilà, c'est la réaction de tous les instants, de tous les jours, dont il faut déchirer, ou même annoter, c'est encore mieux, c'est le coup de gueule contre la SNCF que je voulais jeter ce soir.
Contre la SNCF et également contre les agences de pub qui éditent ces journaux pour beaucoup, beaucoup d'argent.
Chers amis de Radio Courtoisie, merci de nous avoir supportés ce soir. Nous penserons ce soir à Jean Ferré. Bonsoir et que Dieu vous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 11 octobre de 18 à 21h, en différé jeudi 12, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck.